Bonjour les amis, lundi 16 mars 2026, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Va pas falloir lambiner ce matin, va pas falloir lambiner, va falloir y aller, va falloir tryharder l'actu parce que j'en ai un gros. Il est où, j'en ai un très gros sommaire. Théma, la taille du sommaire. Je peux vous dire qu'il va pas falloir traîner. Et puis c'est dense, et puis c'est pas qu'un gros sommaire, c'est des gros articles, c'est grosses informations. Donc je peux dire que l'intro de ce matin, ça va pas être une demi-heure. Hein. Il est énorme, je sais, il est très gros. Mais il faut toujours avoir un gros sommaire avec soi, c'est très utile parfois. Donc bah oui, vu l'actu, beaucoup parler des municipales notamment, mais pas seulement, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, donc de la guerre en Iran, mais d'Israël, l'histoire de la fameuse fake news, enfin buzz bizarre autour de la mort Netanyahou, tout ça, plein de choses. On va parler de musculature aussi. Je vous fais le sommaire avant le sommaire. La mode de la musculature chez les jeunes, notamment les jeunes hommes. On va parler de tennis de table, de ping-pong. Avec l'un des frères Lebrun qui a cartonné en Chine, c'est la première fois qu'un non-chinois gagne ce tournoi. Hey, enfin plein de choses quoi. Bon, ça va vous? Il y a du rugby ou trop tard? Non, je suis pas revenu sur le rugby. Non, t'as vu la taille du sommaire ou quoi? Non mais c'est pas un sommaire, c'est un gratte-ciel le truc. Ah non, j'ai dû faire des choix. Salut Onim. Nokio, merci beaucoup pour le soutien, c'est adorable. Merci Jayloman, merci beaucoup, merci Félix Rompre. Bon, je vois plein. J'ai oui, j'ai un peu abusé du enlarge my summer. Enlarge your summer. Ouais, un petit peu, ouais. Donc, oui, on a beaucoup de choses. C'était bien le week-end. Ah, j'ai une faute sur Netanyahou, peut-être, ouais. J'ai peut-être tapé un petit peu vite ce matin, fais voir. Netanyahou. Fin de live. Oui, on a streamé hier soir. Fais voir Netanyahou. Ah ouais, il manque une lettre là. Bien vu. Ils sont forts, ils sont très forts. Netani. Oh là là, il n'y a rien qui va. Neta. Voilà, ça devrait aller là. Je crois que c'est OK là. Là, c'est mieux. Ça vous va là? Validé. Écrit Nini, ça ira plus vite. Bon, non, quand même. Voilà, je vois que vous êtes nombreux à partager les résultats de vos de chez vous. Ah, on s'en fout, hein. On n'habite pas chez vous, hein. Oui, alors moi dans ma ville, c'est passé au premier tour. Alors moi dans ma ville, il y avait qu'une liste. Alors moi dans ma ville, alors là vraiment, je suis trop deg ce matin. Bon, on s'en fout, on n'habite pas chez vous, hein. Qu'est-ce que vous nous racontez, vous? Non, je plaisante. Non, mais c'est l'intérêt des municipales, c'est qu'à la fois c'est une élection locale et nationale. Et ce matin, on parlera des deux niveaux, du niveau local et du niveau national. Alors, je ne vais pas donner les résultats dans toutes les villes. Il y a 35 000 communes. Hein. Voilà. Mais dans certaines, et puis les enseignements, bien sûr. On est bien accueillis chez Samuel Etienne. Toujours ! Merci, Grégistou. Merci, Sutibu Photo. Toujours. T'en aurais pour un demi-siècle. Tu fais pas d'efforts. Mais t'imagines 35 000 communes ? Et puis surtout, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Hein, tu pourrais relire depuis le début parce que à un moment je suis parti à la cuisine et j'ai pas entendu ma commune. Ah, bah, je vous connais. Hein. 5 candidats au second tour à Paris, c'est dingue. C'est officiel ou pas? Parce que d'après ce que j'ai lu ce matin, les candidats, les listes ont jusqu'à mardi, 18h peut-être, pour dire si elles se maintiennent ou pas. Donc 5. Et ça, attends, ça voudrait dire que Sarah Knafou, c'est officiel, elle a passé les 10%? On va aller voir ça. Hier soir, c'était une des interrogations de la soirée. La fausse, elle est qualifiée? 10,40%? Hop, c'était chaud. Hein. Ok. Elle est passée du coup, d'accord, ok. Et hier soir, ça se jouait à rien du tout, à quelques voix. Hein. Ouais. Oh, merci Louis Axel. Elle est qualifiée, ok. Renifleur de Paix dit 9,9999 aurait été tellement beau. Du coup, ça fait pas les affaires de Dati, ça. Ça fait pas les affaires de Dati. Hein. On va y revenir. Parce que du coup, Dati, elle va devoir gérer le CAC d'info. Compliqué, du coup, pour Madame Dati. Ok, on va en parler ce matin. Qui m'écrit ce matin? Oh, mon amoureuse. Ce matin, j'ai emmené Malo. Aujourd'hui, petits yeux, ça va être poche sous les yeux, j'ai une grosse journée. Parce qu'on s'est levé très très tôt, Malo avait voyage de classe. Donc je l'ai emmené à la gare ce matin. On avait rendez-vous à 7h à la gare. Et avant ça, il a fallu lire les journaux. Imaginez la gueule du réveil ce matin, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je suis plus gris que mon sweat. Ça se voit? Ouais, je sais. Je suis plus gris que mon sweat. Et attends, c'est pas tout. À 13h, je vais à Radio France enregistrer un truc à la maison de la radio. À 14h30, j'ai un gros tournage secret, mais génial. À 17h30, j'ai un Teams. 18h30, j'ai un Teams. Je ne veux même pas regarder mon agenda de demain. On verra bien demain ce qu'il y a. Je regarderai ce soir. Bon, vous, ça va sinon? Ah, ça, c'est du lundi, ouais. C'est du lundi qui dépote, toi. Ouais. Demain, t'as un autre jour. On verra. Café en intra. Oh oui, café en intra. Oh oui. Ma journée a commencé à quelle heure? Bon, on s'est levé vers 4h45 ce matin. Ça va, ça. Ça va, ça. Mais non, c'est une belle journée. C'est une belle journée. 7h à la gare, c'est tôt. Oui, c'est très tôt. Ouais. Heureusement que c'est bientôt le week-end. Tu t'es levé une heure après mon coucher. Waouh! Après, quand l'actu, quand la, y a Goldman qui chantait quand la musique est bonne, mais quand l'actu est bonne comme ça, ça va quoi. Ok, ouais, Salomon, ouais, bien sûr, triste. Bon, formidable de vous avoir. Vous savez quoi? Moi, j'ai envie de vous proposer ce matin, en plus, vous êtes super nombreux déjà. Moi, je vous propose ce matin de partir maintenant, après seulement 10 minutes d'intro. Oui, sous vos yeux ébahis. 10 minutes d'intro pour le sommaire, direct. Voilà. Hein. Normalement, c'est une demi-heure le chit-chat ici. Et comment ça va? Et la famille, et la cousine, toujours avec José, là, tout ça et tout. Ah oui. Ah ben non, il y a trop. Non, il y a trop d'actu. Il y a trop d'actu. Regardez ça. Hein. Ah oui. Ah ben non, ce matin, on ne traîne pas. Je vois bien mon sommaire, mon poster. Qu'est-ce qu'on va mettre sur YouTube d'ailleurs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va mettre sur YouTube? L'histoire, la rumeur de la mort de Netanyahou, c'est assez incroyable en vrai. Et un truc sur les municipales. Qu'est-ce que je vais mettre? Merci Alpharus. Merci pour le soutien. Je suis là pour vérifier la taille du sommaire. Ah, il y a des gros sommaires ici. Mais c'est parce qu'on a des gros sommaires, c'est qu'on ne voit rien du coup. Le brun sur YouTube, je suis pas sûr. Netanyahou, ça va leur plaire. Je ferai peut-être les municipales le premier sur les grands enseignements. Ouais, MMG, bien vu. Ouais. On va faire ça. On va faire les municipales grands enseignements et les rumeurs, la rumeur de la mort de Netanyahou. Ok. Ouais, ça en fait deux. Ok? Allez, on est parti pour le sommaire. Donnez-moi un go et on y va. Ah, mais attends, attendez, juste un truc là. Ok, d'accord. Go, c'est parti. Allez, go. Hey. 12 minutes d'intro. Je ne sais pas si on a déjà fait lancer un sommaire après 12 minutes d'intro. Allez, c'est parti. C'est parti. On va dire bonjour à nos amis qui nous écoutent en podcast, parce que en podcast, ça démarre ici au sommaire. 3, 4. Bonjour à tous. Bienvenue dans la matinée Étienne sur Twitch. 5 ans qu'on se tabasse d'actu tous les matins ici. Vous nous écoutez en live sur Twitch le matin, merci d'être là. Vous nous écoutez en replay sur YouTube à J plus 1, merci de nous écouter. Vous nous écoutez tous les jours en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast, les Spotify, les Deezer, les Apple Podcasts, à partir de ces postés en général à partir de 15-16h l'après-midi par l'ami Vincent. Merci de nous écouter en podcast et dans le chat Twitch, n'hésitez pas à dire bonjour à nos amis de YouTube. Bonjour YouTube! Et de dire bonjour à nos amis de podcast. Bonjour les amis de podcast, etc. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Un énorme sommaire. Ici, on aime les sommaires, on aime les gros sommaires. Il faut toujours avoir un gros sommaire vers soi. Voilà. On a un gros sommaire. C'est pour ça que je démarre sur les chapeaux de roue ce matin. Voici le sommaire, voici de quoi on va parler. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, vous avez l'essentiel de l'actu, si vous n'avez pas 3 heures à me consacrer ce matin. Alors, on va évidemment. Attendez, je vous montre en même temps les articles dont je vais vous parler. Il y a un petit tropisme parisien ce matin, le Parisien journal, vous allez comprendre pourquoi, parce que j'avoue que le dossier du Parisien sur les municipales est topissime. Alors, un premier sujet, municipales, les grands enseignements. En fait, vous avez vu, je vous ai découpé les municipales en trois parties. Les grands enseignements, un, un peu scolaire pour essayer d'être clair. Deux, les résultats ville par ville, c'est-à-dire pour les plus grosses villes, hein, je ne vais pas vous faire les 35 000 communes de France, ça va être compliqué. Et les résultats partie par partie. Parce que cette élection locale, elle a aussi des conséquences au niveau national. Et puis regardez, à la toute fin du stream, je vous en remets une couche. On verra si on a le temps, mais je me dis que les gens qui vont arriver en cours de revue de presse et qui auront raté les municipales, vu, t'as compris, qu'on démarche sur le chapeau de roue, ils seront peut-être contents d'avoir un petit résumé à la fin. Voilà. Donc je vous ai mis Le Parisien pour les trois premières entrées, parce que le dossier du Parisien, il est gigantesque. Voilà. Le Parisien qui a été le dernier à sortir dans la nuit, et on comprend pourquoi, c'est des papiers, des reportages, des coups de projecteur, des explications, des analyses. Regardez, j'ai 17 pages dans Le Parisien, voilà. Le Parisien qui a paru beaucoup plus tard hier soir, la nuit dernière, parce qu'ils avaient plein de choses à nous dire. Donc je trouvais que c'était le dossier le plus complet ce matin. J'aurais pu vous mettre du Libé, du Figaro, etc. Mais j'ai choisi Le Parisien. Deuxième gros titre ce matin, Sarkozy. Eh oui, Sarkozy de retour devant la justice. Alors j'aurais pu titrer Sarkozy à nouveau devant la justice, mais ce qui aurait été relativement juste. Mais je me suis dit, mais les fans de Sarkozy, il y en a, m'aurait dit à nouveau devant la justice, tu fais croire à ta communauté qu'il est poursuivi dans une autre affaire. Non, c'est le procès en appel du financement libyen de sa campagne présidentielle. Voilà. Donc du coup, j'ai été très factuel, le procès en appel de financement libyen. Voilà. Alors, évidemment, la Libération fait de l'humour, ils aiment faire de l'humour, et se demandent si ça va être l'occasion d'un nouveau livre. Oh là là, les coquins, les coquinous. Voilà. Puisque Sarkozy avait fait appel de sa condamnation en première instance. Ok. Ensuite, on revient au Parisien, parce que pour le coup, c'est le seul journal qui nous en parle vraiment ce matin, alors que je trouve que l'histoire est intéressante, sur la rumeur qui a couru ce week-end de la mort du Premier ministre israélien Netanyahou. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est vraiment un truc d'Internet. C'est vraiment même un truc surtout de X. Voilà. X qui est l'endroit de toutes les rumeurs, de toutes les contre-vérités, de tous les mensonges, de toutes les manipulations. C'est comme ça, parce que l'algorithme est pourri. Voilà. Et du coup, le Parisien décrypte ça et nous montre justement la place grandissante que prend la désinformation, les fake news, dans notre société. Lors du conflit en Iran, le contrôle du narratif est devenu primordial. Ce week-end, des comptes X, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est sur X, hein. Ont annoncé la mort du premier ministre israélien Netanyahou, cumulant des millions de vues. Voilà. Donc on lira ça, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les infos. Merci Enzo Guérini dans Le Parisien de nous proposer cet article. Je vais vite parce que c'est le sommaire. Félix Lebrun au plus haut en Chine, une dinguerie, une performance de fou de Lebrun, qui est donc le cadet, hein, des deux frères Lebrun, si je ne dis pas de bêtises. C'est lequel ? C'est Félix, voilà, qui nous raconte la presse ce matin, et notamment la une de l'équipe, mesdames et messieurs. La une de l'équipe, hein. La une de l'équipe, souvent il y a du foot, il y a du rugby, on a eu du sport paralympique récemment, c'était formidable. Et là, eh bien, c'est du ping, il y a du ping-pong, du tennis de table. Voilà. Et donc c'est la première fois qu'un non-chinois gagne un VTT, enfin un WTT là, champion en Chine. C'est historique. Voilà. Passer maître en Chine. Il n'y a pas de contre-pétri. Hein. Voilà. Donc on saluera cette perf. Et puis, alors ça n'est pas moi de dos, hein. Ça n'est pas moi de dos, je me suis assez exhibé ces derniers temps, puis en plus ça manque de tatouage, on va pas se mentir. Et donc c'est un article dans le Figaro sur la tendance, la mode à la musculation, la musculature, notamment chez les jeunes hommes en France, ces jeunes hommes obsédés par leurs biceps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La multiplication des salles de sport low cost et la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux incite la Gen Z à sculpter ses muscles. Si certains voient dans le phénomène une dérive masculiniste, ces garçons cherchent surtout, estime le Figaro, à être en meilleure santé et à canaliser leurs pulsions. Ça muscle un peu dans le chat, là. Il y a des gens qui font ça ou pas ? Alex02, ça tombe bien, je suis à la salle. Voilà. Le Figaro a raison. Dire que tous les adeptes de musculation sont des masculinistes, ça n'a aucun sens, c'est débile. Même si c'est un marqueur peut-être de cet univers-là. Oui, moi, mais je suis une femme. Eh ben, merci, Sarah Lastrit. D'ailleurs, c'est ce qui manque dans l'article. Ça parle pas des femmes. C'est dommage. J'ai juste le coude. Je t'écoute à la salle. Il y a plein de gens qui m'écoutent à la salle. Je sais, je sais. C'est un des trucs qui manque dans cet article. Ça parle pas de la musculation chez les femmes. Alors, je sais qu'il y a de plus en plus. Hein. Ok, bon, non, vous m'en... Oui, mais je suis pas jeune. Oh, Arnaud, ça se trouve, t'es tout minot, t'as quoi? T'as 30 ans, t'es jeune encore. Hein. Moi, je fais de la mâchoirophilie, c'est quoi ça? Je mange énormément, merci Adichat. Moi aussi, je fais ça. Salut Alex. Bonjour Monsieur Samuel, désolé pour le retard, mon réveil n'a pas sonné, mon chien l'a mangé, mes devoirs sont tombés dans le puits communal suite à l'élection municipale. Ok, d'accord. Accepté, accepté. Bon, pour une fois que tu n'annonces pas la mort de ta grand-mère pour la quatrième fois de ce trimestre, déjà t'as fait un effort. Ok, va t'asseoir, va t'asseoir, va t'asseoir. Tu viendras me voir après le cours quand même. Hein. Et puis, parce qu'on ne s'en lasse pas. Si jamais on a le temps, à la fin de la revue de presse, pour ceux qui auraient raté le gros blow municipal du début, je vous referai un point sur les municipales, cette fois avec un dossier de l'opinion, journal de l'opinion, un peu plus condensé. Enfin, un peu plus condensé, il y a beaucoup de choses à raconter. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mon gros sommaire? Qu'est-ce que vous en pensez de mon gros sommaire? C'est un gros sommaire. Hein? Bon, ça, hein? On a de la matière, hein? Je vais être crevé pendant 3 heures. Il est gros, il est beau. Bon, formidable. Un peu gras, mais ça passe. Il est énorme. Ah bah oui. Eh oui, c'est bien d'avoir des gros sommaires comme ça. On va avoir le temps de tout faire, on va essayer, on va essayer. D'autant que c'est pas des petits sujets. Hein. C'est pas la taille du sommaire qui compte. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Bonjour, je constate que les sommaires sont toujours plus gros ici. Oui, c'est vrai. Rien sur les Oscars? Non. Je pense que c'est tombé. Non, ça a dû tomber trop tard pour les journaux. On en aura demain matin. Demain matin, je vous mettrai les Oscars. Revenez demain matin. Ce n'est pas un sommaire sommaire. Non, c'est un gros sommaire. Fin du live prévu à 18h30. Non, ça, c'est impossible. À midi 15, je vous abandonne. Ok, let's go. On va démarrer, mais en mode dragster. Vous êtes prêts? Donnez-moi le go et on y va. Et on part sur les municipales. Que compenses-tu par la taille de ce sommaire, Samuel? Rien du tout. C'est parti? Ok. Et redire bonjour à nos amis de YouTube. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch en direct tous les matins. N'hésitez pas à venir nous voir. Et de temps en temps, on vous en met aussi pour vous de l'actu. Tenez, on avait décidé avec les amis là de vous parler ce lundi matin, eh bien, des grands enseignements du premier tour des municipales. On va servir beaucoup du Parisien ce matin pour parler des municipales parce que leur dossier est très, et comme on sommaire, est très gros, il est très complet. Et donc, quelles sont les leçons? Sachez qu'on a fait une spéciale sur cette chaîne Twitch hier, donc on a déjà dit beaucoup de choses, mais tout le monde n'était pas là hier soir. Peut-être qu'on peut commencer par l'édito, l'article où un journaliste donne son avis de Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions dans Le Parisien qui est à gauche. Alors, c'est un édito, c'est une analyse qui n'engage que lui, vous n'êtes pas obligé de le partager. Hein. Mais vous pouvez aussi être d'accord, rien n'est interdit ici. Un tournant. Alors déjà, c'est une élection. Avec des enseignements. C'est pas il s'est passé des choses. Un tournant. Tournant, c'est fort. C'est-à-dire un tournant. À tous ceux qui pensaient qu'en 2024, les résultats des dissolutions étaient un accident dans l'histoire politique de la Ve République, ce premier tour des municipales confirme au contraire l'effondrement du bloc central. Hein. Vous savez, ce qu'on appelle la polarisation du paysage politique français, l'émiettement du paysage politique français, non plus avec deux gros blocs qui affrontent gauche-droite, pour faire simple, mais plusieurs pôles, et qui rendent du coup très difficile de trouver une majorité pour soutenir un gouvernement, eh bien, Nicolas Charbonneau nous dit, ça n'était pas un accident. Ça se confirme. Voilà. Ce premier tour confirme l'effondrement du bloc central. Et la progression des partis extrémistes, désormais très bien implantés à l'échelle locale. Vous notez, parti extrémiste, que Nicolas Charbonneau met donc dans la catégorie parti extrémiste le RN, extrême droite, et LFI, extrême gauche, puisque le ministère de l'Intérieur, récemment, avant ses élections, a décidé de classer désormais LFI à l'extrême gauche. Il y a un débat là-dessus. Et ça a été validé par le Conseil d'État. Et du coup, le Parisien s'aligne sur ça. Voilà, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment de retrouver l'extrême gauche à propos de LFI. Le RN et ses alliés, donc l'UDR notamment, l'emportent ou arrivent en tête dans des villes comme Perpignan, Nice ou Toulon, quand de son côté, LFI réalise de très forts scores et crée la surprise dans des communes comme Roubaix, Lille ou Toulouse. Chacun de ces deux partis, quels que soient les résultats du second tour, fera son entrée en nombre dans les conseils municipaux. Parmi ceux qui tirent leur épingle du jeu, on l'a vu hier soir, de ce premier tour, effectivement, il y a le RN, hein, qui n'a jamais été un parti très implanté au niveau local. Il n'y a pas beaucoup, au regard du nombre d'électeurs qui votent pour le RN aux élections nationales, il n'y a pas beaucoup de maires RN en France. Et LFI, qui a longtemps été un parti qui a ignoré en fait les municipales, a changé de stratégie, a décidé de faire campagne pour ces municipales. Et on peut estimer, s'accorde à dire la plupart des observateurs, que ces deux partis tirent plutôt leur épingle du jeu, hein, que le RN et LFI ont fait de bonnes performances à ce scrutin. Il y a donc, estime le journaliste Nicolas Charbonneau, une prime à la radicalisation, au discours, au programme de rupture et la confirmation d'une France qui oscille entre les extrêmes, une valse de laquelle les partis traditionnels historiques, les fameux partis de gouvernement, semblent exclus. À part du côté d'Édouard Philippe, seule personnalité à tirer son épingle du jeu, ou plutôt rassurée par ce projet. Pourquoi Édouard Philippe? Parce qu'il avait très peur d'être battu au Havre et de perdre la mairie du Havre, et il avait dit « si je perds la mairie, j'irai pas à la présidentielle ». Les discours et commentaires étaient lugubres hier soir, du côté donc des partis dits de gouvernement. Bruno Retailleau d'abord pour LR, puis Olivier Faure pour le PS avaient la voix blanche et le ton funeste de chefs de parti qui n'ont pas l'air de croire eux-mêmes en leur chance de second tour. Quant aux macronistes et ceux qui pensent depuis toujours faire barrage aux extrêmes, ils étaient aux abonnés absents. Le macronisme municipal, supposé qu'il existait un jour, est totalement défait. La participation, c'est moi qui le dis ça. La participation enfin, alors ça c'est un sujet. On a longuement parlé hier soir, on va en reparler ce matin, la participation est très faible. C'est la participation la plus faible à une élection municipale depuis 1958, si on met de côté, il faut mettre de côté, le scrutin de 2020 qui était frappé par la crise sanitaire. Donc le scrutin de 2020 mis à part, qu'on ne peut pas comparer à un autre scrutin pour des raisons évidentes, le scrutin d'hier, le premier tour, c'est la participation la plus faible de l'histoire de la Ve République. Ça pose plein de questions sur l'attractivité du paysage politique, sur le fossé grandissant entre les Français et les politiques, et la politique. Il y a aussi des questions sur le fait qu'il y a de plus en plus de villes où il n'y a qu'une seule liste. Il n'y a qu'une seule liste. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Disons que cette défiance grandissante des Français vis-à-vis du politique, qui est installée depuis un moment déjà, elle se poursuit. Elle grandit. La participation, enfin, bien faible pour une élection censée motiver les Français, ne dit rien de bon de ce que feront nos concitoyens dimanche prochain et plus loin lors de la présidentielle dans un an. Salut, bravo. Merci Darko. Je vous lis un petit peu et j'enchaîne avec... Ça, c'était juste l'édito, hein, c'est rien du tout. Hein. C'est une petite... Et on va lire après ce papier sur les grands enseignements du scrutin et notamment, vous me demandiez les chiffres sur l'abstention, ils sont là. Voilà, et l'analyse d'un politologue qui est assez brillant qui s'appelle Pascal Perrillon. Ok, je vous lis vite fait. ...70% des communes avaient une liste unique, ça explique beaucoup la participation. 68%, John, pour être précis, de communes avaient une liste unique. Et ça a sûrement impacté la participation, ouais. Voilà, effectivement. Oui, c'est vrai, ouais, Carole. Alors ça a toujours été. Bonjour Carole. Moi, ce que je constate, me dit Carole, c'est que dans les grandes villes, on trouve des batailles politiques, mais dans les petites communes, c'est très majoritairement des listes sans étiquette. Oui, ça a toujours été comme ça, pour le coup. Je trouve important de l'observer, non. Oui, mais pour le coup, ça a toujours été comme ça. Ça n'est pas une nouveauté, quoi. Dans les petites communes, on vote pour une personne en général. Il y a parfois une étiquette, mais c'est pas ce qui est le plus important. Effectivement, dans les grandes villes, on retrouve plus des oppositions politiques. Alors, pour le coup, c'est intéressant, mais ça a toujours été le cas au municipal. Les stats sont intéressantes si on exclut les villes à une seule liste. Alors, deux remarques. 68% des communes, ce n'est pas 68% de la population française, bien sûr, parce que ce sont les plus petites communes. Donc, statistiquement, ne pensez pas que 68% de la population a été confrontée, des électeurs en tout cas, à des monolistes. Hein. Première chose. Deuxième chose, non. Moi, j'aurais bien aimé avoir le chiffre de la participation, de l'abstention, en enlevant, par exemple, toutes les communes où il n'y avait qu'une seule liste, pour voir s'il y avait un impact. Je ne l'ai pas vu ce matin. Et c'est bien dommage, parce que c'est pourtant un chiffre très intéressant. Vous avez raison. L'analyse des MMG n'est pas inintéressante. MMG, tu pourrais nous signer un petit papier dans les journaux ce matin, un petit édito. Hein. MMG nous dit, je pense surtout que la majorité des Français ne se retrouvent plus dans les partis non extrémistes où ils constatent d'une part qu'ils ne concrétisent pas leurs engagements et qu'ils n'aident pas le pays à avancer, voire même ils le font reculer. Deux tendances semblent s'imposer, s'abstenir par protestation ou céder à la tentation de l'extrémisme qui monopolise la parole médiatique, ouais, que ce soit à la radio, à la télé, dans la presse, comme sur les réseaux sociaux avec l'appui des hommes d'affaires. J'avoue. Je trouve que la situation est plutôt bien résumée. On continue? Alors, l'article général sur les grands enseignements du Parisien, le voici. Il est signé Marcello Westfred. Une semaine de suspense et de tractation, de suspense, pardon. Pourquoi une semaine? Parce que dans une semaine, dans 6 jours, il y a le deuxième tour. Le scrutin marqué par une faible mobilisation, premier enseignement, a permis au RN et à LFI d'afficher les victoires, deuxième enseignement. Mais les jeux restent ouverts et dépendront des alliances et retraits décidés d'ici à mardi. À un an de la présidentielle, le premier tour des municipales ressemble fort à un tour de chauffe avant la grande explication nationale. Quelqu'un disait tout à l'heure, très en colère tout à l'heure, en disant « Ah, je comprends pas, on parle toujours d'enjeu national pour les municipales, mais c'est tellement... Oui, je suis très en colère, c'est débile, c'est stupide, pourquoi vous faites ça? » Mais bien sûr qu'il y a une dimension nationale dans ce scrutin. Évidemment. Évidemment qu'il y a une dimension nationale dans ce scrutin. Ce n'est pas une addition de scrutins municipaux. C'est les deux. C'est une élection locale qui a un retentissement national. Surtout dans un pays comme la France qui est passionné par la politique. Ce dimanche soir, alors que des dépouillements livraient leur vérité, s'est dessiné un paysage politique éclaté, donc confirmation de ce paysage éclaté, confirmant le cycle ouvert par la dissolution, avec des extrêmes en dynamique dans les centres urbains, une participation nationale basse. Notez qu'à Paris, la participation était forte. Fin de l'ère Hidalgo, sans doute. Vrai enjeu, vrai suspense. Jordan Bardella, patron du RN, a pris le premier la parole hier soir pour saluer de premières victoires à Perpignan, où Louis Alliot a été réélu dès le premier tour. Beaucaire, Fréjus. Le changement commence dans 7 jours à Tonnerre, l'eurodéputé, qui a mis en avant la réduction des impôts et de la bureaucratie, a tendu la main aux listes de droite sincères. Bon, c'est les éléments de langage. Pourquoi je. Je ne vais pas vous lire tous les éléments de langage des politiques ce matin, on va pas en finir. La percée de Franck Alizio à Marseille, candidat RN, qui affrontera le maire sortant PS, Benoît Paillon, a donné du baume au cœur au camp RN. Le vrai gros truc pour le RN dans ces municipales, ça aurait été de faire tomber Marseille. Le RN progresse, certes, au niveau municipal, mais ils partent de tellement loin. Ils sont tellement peu présents au niveau de local. Le RN, hein, la seule grosse ville, enfin la plus grosse ville qu'ils avaient, c'était Perpignan, que il y a une progression, mais ils partent de loin. Mais le vrai truc, le vrai choc, ça aurait été qu'ils gagnent Marseille. C'est pas terminé, il y a un second tour. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que Franck Alizio soit vraiment en situation de force pour gagner Marseille. Je peux me tromper, on verra dimanche prochain. En tout cas, ce sera vraiment une des attentes fortes dimanche prochain. Est-ce que le RN peut prendre Marseille? Voilà. On fera une soirée spéciale, bien sûr, dimanche prochain, ici. Tout comme la première place d'Éric Ciotti, alors qui n'est pas RN, mais qui est un allié, qui est le président du DR, hein, qui est largement en tête à Nice devant Christian Estrosi. Là, pour le coup, c'est une bonne nouvelle, non pas pour le RN, mais pour l'extrême droite, puisque monsieur Ciotti n'est pas RN. C'est un allié de l'UDR. Ensuite, c'est Manuel Bompard pour LFI qui s'est exprimé hier soir depuis le QG de LFI. Il a vanté une progression remarquable, assurant que la victoire est à portée de main dans nombreuses communes. Oui, c'est vrai aussi, comme le RN, LFI progresse. Mais comme le RN, LFI était très peu implanté au niveau municipal. Donc ça part de très loin aussi. Mais LFI progresse. Et du côté des socialistes, je pense qu'on ne s'attendait pas à d'aussi bons résultats de LFI. Malgré une campagne mouvementée où le parti a été attaqué pour ses liens avec la Jeune Garde, après la mort du militant nationaliste Quentin de Ranque, la mouvance de Jean-Luc Mélenchon a néanmoins réussi à élargir son socle dans deux grandes villes. UDR et d'extrême droite? Oui, bien sûr. Diesel, c'est une blague ou pas? Oui. C'est l'allié du RN. est défini comme d'extrême droite par le ministère de l'Intérieur et par le Conseil d'État, comme le RN. Roubaix, par exemple, Roubaix, très bon score, où le député LFI David Guiraud manque de peu une élection dès le premier tour. Ouais. À Lille, la candidate LFI, Lawaria Hadouche, est au coude à coude avec le PS, représenté par Arnaud Deslandes. À Toulouse, bon résultat pour LFI aussi, où le candidat François Picmal a fait un score historique. Idem à Saint-Denis, avec Bali Bagayoko. Ces dernières semaines, Jean-Luc Mélenchon avait averti que ces élections serviraient de rampe de lancement pour 2027. Pardon, hein, je reviens à la personne tout à l'heure qui était un peu en mode en colère. Oui, pourquoi vous parlez de dimension nationale de ces élections municipales? C'est un non-sens. Jean-Luc Mélenchon, deux points, voilà, avait averti la semaine dernière que ces élections serviraient de rampe de lancement pour 2027. Si ça, c'est pas une élection à dimension nationale. Du côté du bloc central maintenant, les visages étaient plus tendus, tu m'étonnes. Même si Édouard Philippe, qui avait lié son destin présidentiel à ce scrutin, a réussi finalement à tirer son épingle du jeu, hein, il était annoncé comme perdant face aux communistes et finalement il se retrouve en triangulaire dimanche prochain et il peut garder la ville. À suivre. Autre présidentiable qui jouait gros, le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, dont je ne vous ai pas parlé hier soir, qui a annoncé sa victoire dès le premier tour à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord. Soulagement. Pour les partis traditionnels comme les Républicains, l'entre-deux-tours s'annonce complexe avec la question des alliances à trancher. La droite fait mieux que résister, elle se renforce, estime Bruno Retailleau. Voilà. De son côté, le PS va essayer de garder ses fiefs dans la capitale. Emmanuel Grégoire, donc issu de l'ancienne équipe municipale d'Anne Hidalgo, s'est félicité que les Parisiennes et les Parisiens nous aient placés largement en tête de ce premier tour. On se penchera sur Paris tout à l'heure, mais c'est vrai que pour Emmanuel Grégoire, le score du premier tour est plutôt un bon résultat. Dati, en revanche, est déçu par son score. Cradouk, écoute, attendez, les communistes ont vraiment gagné. Tu n'écoutes pas, Cradouk. J'ai dit que les communistes, selon les sondages, auraient pu ravir la ville, c'est-à-dire revenir au pouvoir. Le Havre a toujours été tenu par les communistes. Après, Édouard Philippe a pris le pouvoir. Et donc, les sondages disaient que les communistes pouvaient reprendre le Havre. Cradouk, tu n'écoutes pas, hein? C'est quoi ce bordel? Va reprendre un café et reviens. Je ne veux pas de gens dissipés ici, moi. Je ne veux pas de gens qui posent des questions qui n'ont aucun sens parce que ça n'écoute pas. Hein. Donc, mon crado, que tu vas chercher un café. J'en peux plus, moi. Hein. Vous êtes 3550. Il y en a 3549 qui écoutent et il y en a un qui n'écoute pas. Waouh. C'est fou, ça. Hein. Tu viendras me voir après le cours. Quant au socialiste François Cuillandre, maire de Brest depuis 2001. Demi 2001. Il est devancé par la droite et risque sur le papier d'avoir besoin d'une alliance avec LFI pour son éventuelle réélection. Voilà. Mais, alors, là on en vient aux alliances. Qu'est-ce qu'a dit Olivier Faure, le patron du PS? Aucune alliance nationale avec LFI. Vous savez, contre les socialistes. Et LFI, en ce moment, c'est tendu. Enfin, c'est tendu depuis un moment, mais c'est tendu. Voilà. Aucune alliance nationale. Nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau local, on sait qu'il y aura des alliances. Au niveau local, entre des candidats socialistes et LFI. Ils font ce qu'ils veulent au niveau local. Voilà. Mais au niveau national, il n'y a pas d'accord national PS-LFI. Alors, d'ailleurs, le Parisien pose la question, est-ce que sur le terrain, les vérités du dimanche seront celles des prochains jours? S'ouvre maintenant, alors ça c'est très intéressant, qu'est-ce qui va se passer? Tractation, discussion, négociation. S'ouvre en effet une séquence où chaque heure va compter jusqu'au dépôt des listes du second tour mardi en fin d'après-midi, 17-18 h. Je crois que c'est 18 h. Donc là, hein, quelles alliances pour le second tour? Là, il y a beaucoup de résultats au second tour qui vont dépendre des alliances qui sont en train de se jouer en ce moment. Hein, ça dort pas beaucoup dans les états-majors politiques. Hein. Je vous rappelle que toutes les listes qui ont plus de 10% peuvent se maintenir, comme ça qu'on peut avoir des triangulaires, des quadrangulaires. Alors, hier, on voulait dire des pentagulaires, mais ce matin, c'est pas ça que j'ai eu, du quinquagulaire, je crois. Je crois que c'est ce que j'ai eu. Hexagulaire, 6. Voilà. Bah, on s'en fout. À 5 ou à 6, vous avez compris. Est-ce que l'union des droites sera plus forte que les consignes d'appareil? Est-ce que les électeurs de gauche feront barrage ensemble, malgré l'appel des socialistes au niveau national, à bannir LFI? À Marseille, par exemple, le candidat LFI, Sébastien Delogu, a proposé un front antifasciste à Benoît Payan pour battre le RN, une sorte de fusion technique. Voilà. Tandis que le député RN Sébastien Chenu a déjà dénoncé, lui, des magouilles, des tambouilles, des bidouilles. Ce dimanche soir, les grandes manœuvres pré-présidentielles ont commencé. Voilà. C'est un article qui en trois colonnes nous donne l'essentiel de ce qui s'est passé hier soir. Alors, bougez pas parce qu'après, hey, regardez-moi ça. Il y a 17 pages dans le Parisien ce matin. 17 pages. Ouais, donc là, je vous ai donné l'essentiel. Mais après, on va rentrer un petit peu dans le détail. Ouais. J'ai un gros sommaire, j'ai un gros dossier. Je reviens un peu là sur l'abstention. Regardez l'abstention, page 3 dans le Parisien là. Là, on a que les. Alors, les scores. Donc, on est entre. Le résultat définitif, on pourrait le trouver sur Internet en allant voir le site du ministère de l'Intérieur, mais on est entre 42 et 44% selon le Parisien ce matin. C'est 6 à 8 points de plus d'abstention qu'en 2014. On va mettre 2020 de côté, c'était la crise sanitaire. Hein. Voilà. Je vous rappelle que c'est la plus forte abstention municipale hors 2020 Covid depuis le début de la 5e République. Pour le politologue Romain Pasquier, ce manque d'engouement des Français pour la politique n'a rien d'étonnant. On voit depuis de nombreuses années une baisse de la participation aux élections locales. Hein, d'abord cette année, un changement de mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants. Hein, pour la première fois, dans les communes en dessous de 1000 habitants, on ne pouvait plus panacher. On ne pouvait plus, non pas aller prendre un mélange de bière et de limonade au bar, mais on ne pouvait plus rayer certains noms des listes. Avant, on pouvait dans les petites villes, les petites communes. Tout le monde se connaît là-bas. Hein. Oh, le José, là, hein, qui démarre sa voiture à 4h du matin pour aller bosser, là, qui rêvait toute ma famille. Je vais pas voter sur lui, sur la liste, je le raye. Oh, la Julie, là, la boulangère, hein, jamais un sourire, celle-là. Elle veut être élue municipale, je la raye. C'est comme ça dans les petites villes. Bon, bah, c'était interdit maintenant, on pouvait plus faire ça, on pouvait plus panacher. Et quand il y avait qu'une seule liste qu'on pouvait panacher, du coup, les gens se disaient, ah, bon, moi, je veux pas aller voter, je veux pas donner ma voix aux autres, quoi. Donc le système de panachage a été remplacé par un scrutin de liste paritaire avec une alternance homme-femme qui a rendu plus compliqué la constitution des listes. Voilà. Donc dans 23 000 communes sur 34 000, il n'y avait qu'une seule liste, 68% des listes. Alors évidemment, ce n'est pas très motivant. C'est pas très motivant. Se déplacer est donc moins motivant s'il n'y a pas d'enjeu, résume Mathieu Gallard, le sondeur. Là en revanche, où il y avait du suspense comme à Paris, la participation était forte. Hein. D'après lui, la guerre en Iran n'a pas aidé non plus en occupant les principaux titres d'actualité. C'est pas faux. Autre aspect sur lequel insiste le politologue Christophe Boutin, la perte de pouvoir des maires aussi. Le développement de l'intercommunalité a conduit à des transferts de compétences au détriment des mairies. Depuis la dissolution de l'Assemblée, le climat est aussi très particulier. Il y a un tel spectacle que les Français peuvent se désintéresser de la politique et des élections, veut-il croire, le spectacle de l'Assemblée. Depuis la dissolution, vous le savez, empêchant un possible sursaut de participation au second tour le 22 mars, on verra bien. Vous voyez, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cette forte abstention. Il n'y a pas que le spectacle parfois décevant de la politique. Vous avez entendu Boutin, là, dans le chat, ils ont entendu Boutin dire « Mais alors, c'est son frère, c'est son cousin !» Oh là là. Je vous lis un petit peu. Voter sans choix, c'est pas vraiment un vote. Ouais, mais je sais pas, moi, je. Oui, c'est pas très enthousiasmant, mais à un moment, les gens qui, dans un village, disent « Ah là, il n'y a qu'une liste », bah, créez votre liste, les gars. Les mecs sur la liste, ils vont prendre de leur temps pour faire campagne, pour diriger la ville après, le petit village, c'est du temps, c'est quasiment du bénévolat, hein, ça apporte que dalle. C'est des soucis, c'est des risques même juridiques. Alors c'est bien beau de dire « Ah, mais il n'y a qu'une liste !» Bah oui, mais oui, bah dans ce cas, bah oui, faites-en une autre, les gars. Donc c'est ça aussi le problème. Voilà. Donc je comprends bien que ce soit pas bien enthousiasmant, mais le sujet, c'est ça. Tiens, d'ailleurs, il y a une analyse de Pascal Perrineau sur l'abstention. Pour Pascal Perrineau, la participation en baisse, donc ça c'est autre chose, c'est pas l'histoire des listes uniques, c'est aussi confirme le rejet des Français pour la classe politique. Bon, on a l'impression qu'on entend ça depuis toujours, mais disons que ça a tendance à augmenter. Alors, est-ce que cette abstention était prévisible, demande le Parisien ? La réponse du politologue, c'est que la scène municipale est une scène politique qui désormais, elle aussi, est touchée par la fatigue démocratique. La participation chute régulièrement, depuis un moment déjà, en dépit de l'attachement que les Français ont pour leur maire. Est-ce que le changement de mode de scrutin, on peut être la raison, vous savez, l'histoire du panachage, là voilà. C'est un aspect technique qui n'est pas à négliger, le fait de supprimer le panachage pour les communes de moins de 1000 habitants a donné l'impression aux gens qu'ils ne pouvaient plus choisir du tout. Voilà. Et cela a dû renforcer la proportion des Français qui sont détachés du scrutin en disant que c'était plus la peine de se déplacer. Est-ce que c'est la conséquence de l'instabilité politique qu'on connaît en France depuis 2 ans? Absolument, dit-il. Ce résultat est aussi accentué par l'image délétère que le personnel politique a pu donner depuis 2022. Et surtout après dissolution de juin 2024. Oui, c'est un enfer d'être conseiller municipal, oui. Alan Bass nous dit dans le chat, ma mère a été conseillère municipale dans une petite commune, 3 000 habitants. Franchement, c'était une galère sans nom, elle a perdu tous ses amis à cause de son investissement et de sa droiture. C'est un enfer, hein? Les Français assistent à une espèce d'état d'immobilisme dans lequel la politique et la représentation politique semblent stagner. Merci Xalex, merci Scroff. Alors, question à Pascal Perrineau. LFI et le RN réalisent de bons résultats. Est-ce que c'est la prime aux extrêmes? Pas forcément, répond-il. Je note que LFI est assez fort dans des grandes villes universitaires et celles de quartiers où la mobilisation de la jeunesse a pu être payante. Pour le RN, ces résultats sont la confirmation d'une stratégie d'ancrage local entamée depuis de nombreuses années. Voilà. Donc, Pascal Perrineau dit, plus qu'une prime aux extrêmes, c'est peut-être le travail de ces deux partis au niveau local, qui est assez nouveau pour ces deux parties, surtout pour LFI, qui semble avoir payé. Voilà. Merci Jeff. Aide mon mieux. LFI qui n'a visiblement pas été pénalisé par les polémiques de ces dernières semaines, effectivement, c'est la démonstration que ce discours radical est payant. Alors, question intéressante sur Paris aussi, vers tous les yeux sont tournés, vers ville vers laquelle tous les yeux sont tournés. À Paris, Emmanuel Grégoire, donc majorité sortante, est loin devant Rachida Dati. Est-ce que ça va être compliqué pour elle? C'est mon sentiment. Et le politologue répond, c'est une bonne performance pour Grégoire, Emmanuel Grégoire, et une mauvaise performance, effectivement, pour Rachida Dati. Mais si on fait total des voix de Dati, Bournazel et Knafo, on voit que Grégoire n'est pas complètement à l'abri. Et que va faire Madame Chikirou, qui elle aussi est en capacité de se maintenir, LFI? Si Rachida Dati arrive à fédérer son camp au sens large, c'est-à-dire à se poser en héritière du bloc central, sauf erreur de ma part, Bournazel, le bloc central, qui peut se maintenir au deuxième tour, et Dati ne s'entendent pas du tout. Donc moi, je veux bien croire que Dati va réussir à faire un accord avec Bournazel. Il faut savoir que le patron de Bournazel, Édouard Philippe, lui, il voudrait que Bournazel fasse alliance avec Dati. Mais Dati et Bournazel ne s'entendent pas du tout. Donc déjà, premier défi. Voilà. Donc se poser en héritière du bloc central et à faire un appel à l'électorat CNAFO. Sans avoir à passer d'accord avec elle, dans ce cas-là, elle peut revenir dans le jeu. Mais elle n'aura pas tâche facile. C'est très compliqué pour Dati, parce que d'abord elle doit se réconcilier avec Bournazel et ensuite elle doit séduire les électeurs de CNAFO, a priori, sans faire d'alliance avec CNAFO. CNAFO reconquête le parti de Zemmour, l'extrême droite. Pour Dati, c'est quasiment impossible de passer un accord avec CNAFO, que CNAFO aimerait beaucoup. C'est impossible. Une alliance droite-extrême droite dans la plus grosse ville de France, c'est un big bang politique. Ça veut dire, bon, bah, 2027, allons-y, quoi. C'est très compliqué. Après, c'est comme toute personnalité politique, Dati peut nous surprendre et on peut apprendre dans quelques heures que Dati et CNAFO se sont tapés dans la main, voilà, et qu'il y a une alliance droite-extrême droite à Paris. Ce sera un coup de tonnerre. Je n'y crois pas, mais c'est possible. C'est même possible. Alors, Olivier Faure, le patron du PS, a dit qu'après ce premier tour, le macronisme n'existe plus. Est-ce qu'il a raison? Il n'a jamais vraiment beaucoup existé, estime le politologue, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron s'est jamais vraiment intéressé à ses élections locales. Gabriel Attal s'est réjoui dimanche d'avoir pu faire élire une centaine de maires sur 35 000 communes. Ça n'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Première analyse de Pascal Perrineau, c'est assez intéressant. Voilà pour une analyse dans les grandes lignes. Les grandes lignes. Après, on va rentrer dans le détail. On va rentrer dans le détail à Paris. On va rentrer dans le détail à Marseille. On va rentrer dans le détail au Havre, à Pau, à Nice, à Menton, à Toulon, à Lyon, à Grenoble, à Roubaix, à Strasbourg, à Bordeaux. Waouh. Voilà. Mais je voulais vous donner d'abord les grandes lignes. Voilà. Amis YouTube, vous avez l'essentiel Mais pour plus, vous avez compris, il faut venir dans la matinée Étienne ou voir le replay sur ou avoir le replay de la matinée Étienne sur YouTube parce que c'est là qu'on prend son temps. 3 heures. Amis de YouTube, merci. N'hésitez pas, comme on dit, à mettre un like, un pouce et je sais plus quoi, le turbo bidule 2000, 27 2000 boost bonus. C'est comment déjà sur YouTube? Le boost. Deuxième sujet, maintenant les résultats ville par ville. Bon, je vais essayer d'y aller vite hein, parce que sinon on va y passer la journée et puis j'ai des petits trucs à faire après. À Paris donc, la gauche prend l'avantage. L'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, campagne difficile. Campagne difficile. Comment tu promets du nouveau quand tu fais partie de l'équipe depuis des années? Hein? Comment tu te désolidarises d'Anne Hidalgo, dont la popularité est très faible, alors que tu as travaillé avec elle longtemps, même si tu ne t'entends plus très très bien avec elle, quoi. La campagne est difficile. On peut dire que Emmanuel Grégoire a plutôt réussi sa campagne puisqu'il est en tête. L'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, a remporté avec une belle marge le premier tour. Face à lui, Rachida Dati, ce sera plus compliqué, devra réunir à droite où Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo pèseront. Nouveau mode de scrutin, départ d'Hidalgo, première union historique de la gauche aux LFI. Ce premier tour des municipales à Paris était rempli d'incertitudes. Les résultats sont venus apporter des premiers enseignements et quelques surprises. Emmanuel Grégoire, le député socialiste, est arrivé largement en tête, bien au-delà des scores qui leur avaient été promis par les sondages. Quelqu'un me dit, TikTok, Knafo a posté une vidéo indiquant qu'elle tendait la main à Dati. Tu m'étonnes. Mais attends, mais l'extrême droite ne rêve que de ça. Non, mais j'espère que vous n'êtes pas. Non, mais est-ce que TikTok, tu me dis ça comme c'était un truc incroyable. Knafo a posté une vidéo indiquant qu'elle tendait la main à Dati à elle de la saisir. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est le baiser empoisonné. L'extrême droite n'attend que ça, de devenir qui est qu'une droite. Voilà. Et c'est ça la grande question, c'est est-ce qu'il y aura l'union des droites, la fusion des droites, de l'extrême droite et de la droite? Donc tu m'étonnes que Knafo propose ça, évidemment. C'était tout l'objectif, c'était de passer les 10% pour se rendre indispensable. Alors après, alors Dati aurait déjà refusé, c'est pas encore très clair. Dati n'a mentionné que Bournazel pour sa liste d'union pour l'instant. Voilà. On a jusqu'à mardi fin d'après-midi pour savoir ce qui va se passer. Moi, je ne crois pas à ce que Dati puisse s'allier avec Nafo. Je n'y crois pas. Mais c'est la politique, tout est possible. D'ailleurs, l'article va en parler. Donc, le scénario avec cette avance de Grégoire, c'était le scénario redouté par Rachida Dati, qui est devancé de près de 10 points. Voilà. Et derrière, effectivement, plusieurs listes en mesure de se maintenir. Celle du candidat Horizon slash Renaissance, Pierre-Yves Bournazel, qui est un peu au-dessus de ce que les sondages disaient, au-dessus de un peu plus de 11%. Ce n'est pas des résultats précis, parce que le Parisien a bouclé dans la nuit, donc parfois les résultats officiels sont tombés après. Alors, en tout cas, pour Bournazel, c'est plutôt un bon score. Donc on va voir, est-ce qu'il va y avoir un accord avec Dati, par exemple? Voilà. Sarah Knafo, à 1h30 du matin, comptait 10,15% des voix. Les résultats définitifs sont tombés. Elle est juste au-dessus des 10%, donc elle peut se maintenir. Voilà. Et le candidat du RN, lui, Thierry Marini, n'a atteint que moins de 2%. En troisième place, l'insoumise Sophia pardon, Chikirou. Donc bonne campagne aussi pour la candidate LFI. Elle attend l'appel d'Emmanuel Grégoire. Finalement, c'est drôle parce que c'est un peu le miroir, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que vous avez Knafo qui propose une alliance à Dati dont a priori elle ne veut pas, et vous avez la candidate LFI qui a tout de suite dit à Emmanuel Grégoire qu'elle était prête également à l'union, voilà. Sauf que lui martèle depuis des mois qu'il ne s'alliera jamais avec la France insoumise. Ce lundi, les regards sont braqués sur les deux équipes, Ce qu'on attend maintenant, effectivement, ce sont les déclarations d'alliance ou pas. Donc ça, ce qui va se passer d'ici mardi, ça va être très important. Je vous lis sur Paris et on enchaîne. On va à Marseille. OK? C'est là qu'on rentre dans la politique politicienne où dit cool 7, la droite traditionnelle peut être très tentée pour continuer d'exister, de passer le Styx et s'allier avec le RN. Enfin, c'est la question qui se pose depuis quelques années, effectivement. Styx ou Rubicon, débat. Intéressant. On parle pas assez de la dinguerie que Reconquête ait fait un tel score. Tu veux dire 10% à Paris? Demoiselle Sauveur, ouais, je comprends. Est-ce que c'est Reconquête qui a fait un bon score ou est-ce que c'est Sarah Knafo? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Dans les articles sur la campagne de Sarah Knafo de ces derniers jours, il y avait ce qui était souligné, c'est le fait qu'elle avait finalement très peu mis en avant les idées, les propositions de son parti Reconquête dans la campagne et plus joué sur l'image, sur la séduction, sur le dynamisme, sur la jeunesse. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment Reconquête qui a fait 10% ou est-ce que c'est Sarah Knafo? Vous voyez le sens de ma question? Grosse campagne sur les réseaux sociaux, très, très dynamique, très jeune, etc. Paris heureux, oui, c'est ça. Le mot d'ordre de sa campagne, c'était pas dehors les étrangers, c'était Paris heureux. C'est assez loin du programme de Reconquête. Hein. J'ai reçu, en allant faire mes courses sur un marché il y a une semaine ou deux, on m'a mis un tract dans les mains. J'ai cru que c'était un tract pour, je sais pas, pour, c'était pas un magasin de vêtements ou je sais pas, ou des stages de happiness ou un truc de yoga. Je sais pas ce que c'était. C'était plein de couleurs. Il y avait du rose, il y avait du jaune. C'était hyper pop. Dit, oh, c'est joli et tout. Paris heureux, lui, qu'est-ce que c'est? C'était le tract de Reconquête. Mais ça se voyait pas. Hein, fallait vraiment lire les petits trucs. Hein. Incroyable. Donc c'était clairement pas le parti qui était mis en avant quoi. Tout pop, tout shiny, tout fluo. Trop, ouais. Jolie idée. Je sais pas, quelqu'un me dit le site de campagne de Sarah Knafo était intéressant. Alors moi, je suis pas du tout allé voir. J'avoue que je suis pas allé voir. Je vais pas voir. Il y a un site. Il y a un site. Ah oui, tiens, je l'ai là. Fais voir. On voit ça en direct. Une ville heureuse. C'est intéressant. Oui, on le fait en direct. C'est intéressant. J'accepte les cookies. Allez, non. Et à mon lit. Hey! Pardon, mais il y a mon historique qui va en prendre un coup là. Pardon. Donc, là, c'est le site. Vous voyez, on n'est pas. Je ne vois pas le mot Reconquête déjà là. Il n'est pas tellement mis en avant. Tu vois. Ah, c'est pop, c'est joli. Une ville heureuse. Qui est contre une ville heureuse? Qui veut une ville triste? Tu vois, c'est plutôt... J'agis tout de suite. Bah, c'est mieux que demain, ouais. Hein? Et là, en première page, c'est pas des idées, c'est pas des propositions, c'est 8 actions simples pour aider Sarah Knafo. Je partage la vidéo, je partage le visuel, je partage le site, je signe la pétition, je donne des euros, j'envoie un message, j'imprime des tracts, je rejoins Sarah, je veux faire plus. Combien je gagne? Propriétaire, locataire, automobiliste, calculez dès maintenant les économies que vous ferez quand Sarah Knafo serait élue maire de Paris, avec un simulateur. Oh, c'est bon ça. Une ville heureuse, sécurité, propreté, liberté. Je vois toujours pas le mot de reconquête. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est Sarah Knafou ou c'est Reconquête qui a fait 10%? Vous voyez? Je vois toujours pas le mot reconquête. Qui est Sarah Knafo? Députée européenne, on ne nous précise pas le parti. Ancienne magistrate à la Cour des comptes, Sarah Knafo se présente pour être la prochaine maire de Paris qui a l'objectif de faire de Paris une ville heureuse. Là, c'est l'équipe, là. Ah, il est où le mot reconquête? Il est pas. Eh oui, c'est très intéressant. Eh oui, eh oui. Eh oui. C'est intéressant. Voilà, bon. J'étais pas, je ferme le site. Alors, donc ça, c'est pour Paris. Bon, je crois qu'on a un petit peu les grandes lignes du scrutin. Quelque chose qui va être très intéressant de suivre dimanche prochain, dimanche soir, c'est Marseille. Parce qu'il y a un monde, il y a un monde où le RN peut faire tomber Marseille. Il y a un monde aussi où le maire sortant garde sa mairie, hein. Voilà. Duel serré entre Payan et Alizio, donc Payan le maire sortant, Alizio le candidat RN, qui est un ancien élu de droite d'ailleurs. Le maire sortant d'hiver gauche et le candidat RN ont dominé le premier tour en mesure de se maintenir. Les insoumis et la droite joueront donc les faiseurs de roi. Qu'est-ce que ça dit alors? Donc on a autour de 34,7% des voix pour Franck Alizio, qui est effectivement un ancien élu UMP, qui a rejoint Marine Le Pen en 2015, et qui talonne donc le prétendant d'hiver gauche, le maire sortant Benoît Payan, 35,8%. Donc c'est dans un mouchoir de poche. Deux autres postulants derrière, on a Monsieur Delegu, le LFI, 14,4%, et la candidate de la droite du centre et des macronistes, Martine Vassal, 10,9%. Cadre angulaire. Pour le RN, ça n'est pas rien. Hein. Là, on est sur combien? 34,7% des voix. C'est une percée dans la deuxième plus grande ville de France. Une quinzaine de points de plus par rapport à 2020. C'est pour ça que je vous dis que c'est un vrai bon score pour le RN. C'est peut-être le moment de tester le RN à Marseille. On n'a jamais essayé, explique Abdel, ouvrier rencontré avant le verdict des urnes dans les quartiers du Nord. C'est le fameux argument, mais on n'a pas essayé. Vers 22h, bon ça c'est le récit de la soirée, on va pas y revenir, hein, ça va. Donc là, la question de savoir c'est notamment si ce qui va se passer du côté des deux candidats qui ont passé les 10% côté LFI et donc bloc central LR, vont-ils se maintenir? Reste désormais, par exemple, à savoir si Martine Vassal va se maintenir ou non au second tour. Avant le verdict du premier tour, elle jurait qu'elle ne se désisterait pas, au risque d'aider indirectement à la victoire de la gauche ou du RN en contribuant à l'éparpillement des voix. En cas de retrait, elle pourrait aussi dire adieu à la présidence de la métropole. Quant à Sébastien Delogu, le LFI, il est en capacité de se maintenir également dimanche prochain. Durant la campagne, son patron Jean-Luc Mélenchon avait proposé une fusion technique au frère ennemi Benoît Payan. Proposition refusée par Payan, qui, opposée à toute alliance, préconisait un simple retrait. Donc là encore, LFI tend la main, et du côté de Benoît Payan, on dit non. C'est un peu ce qui se passe ce qui pourrait se passer aussi à Paris. Sauf que Delogu, lui, il refuse tout retrait et il appelle à la constitution d'un front antifasciste. D'où la conclusion de l'article, même très sérieusement distancé, les troisième et quatrième joueront les faiseurs de rois. Voilà. On attend le. Ah, je savais que c'était 18h. On attend maintenant l'heure limite de dépôt des listes mardi à 18h. Je vous lis et on enchaîne avec le Havre. On va aller un peu plus vite sur les villes. Je vous lis, je vous lis. Bande de beaux gosses. Oui. On va parler de Grenoble, bien sûr, d'Arcomer. On va passer en revue quasiment toutes les grosses villes. Ok. Alors, Le Havre. Bon, bah, Le Havre, c'est simple, hein. Édouard Philippe, dans les sondages, était donné très en danger par les communistes qui auraient pu reprendre la mairie qu'ils ont dirigée très longtemps. A priori, Le Havre, Édouard Philippe, semble assuré de garder la mairie. Et donc, de confirmer sa candidature à la présidentielle, puisqu'il avait dit que si il perdait, il ne se présentait pas à la présidentielle. Donc, Édouard Philippe, qui est quand même dans les sondages la meilleure chance du camp central slash droite, est toujours dans la course. Donc, ça le laisse dans l'équation présidentielle. Pau, bon, je ne me suis pas trop penché sur Bayrou, mais on a les résultats là. C'est où là? Pau, Bayrou en tête avec 33,83% pour le MoDem. On ne parle plus beaucoup du MoDem. Hein. En deuxième place, le socialiste Marbeau. Et on a 16% quand même pour la candidate du RN, Madame Taillefer. Est-ce que ça donne quoi pour le deuxième tour du coup? Donc c'est une triangulaire. 26 ans, Margot Taillefer du RN. C'est la première fois dans les Pyrénées-Atlantiques qu'un candidat d'extrême droite se retrouve au deuxième tour. Alors on verra ce qui se passe dimanche prochain. Triangulaire. Voilà. Alors, bon, ça, c'est pas une surprise par contre. Là, les sondages l'avaient annoncé. Les sondages donnaient Ciotti loin devant Estrosi à Nice. Donc Ciotti, c'est le président du parti UDR, parti d'extrême droite allié au RN. Voilà. Et Ciotti fait un très bon score, loin devant Estrosi. Voilà. Et je ne vois pas ce qui pourrait empêcher Éric Ciotti de devenir le nouveau maire de Nice. Le député UDR soutenu par le RN est arrivé en tête du premier tour avec près de 13 points d'avance sur le maire sortant dont le destin ne tient plus qu'à un fil. Qu'est-ce qui va se passer après? Qui peut se maintenir là? On a une candidate de gauche, Union écologiste socialiste PCF, Juliette Chenel-Leroux, qui peut se maintenir. Alors, est-ce que quelqu'un me disait que Christian Estrosi avait fait un appel à la gauche pour faire barrage à l'extrême droite? Voilà. Alors combien d'électeurs de gauche vont voter pour Estrosi? Je pose des questions. J'ouvre le débat.
Je pose la question, on ne peut pas poser la question.
Hein? On peut poser la question quand même. Je cherche ce que dit Estrosi parce que lui, il est obligé d'en appeler à d'autres voix que celles qui sont portées sur son seul nom au premier tour. Alors, hier soir, Estrosi a lancé un appel du pied aux électeurs de gauche. Une réserve de voix possible pour dimanche prochain dans une ville qu'on peut considérer comme un peu à droite, reconnaît-il, mais par contre avec une main gauche du maire et un équilibre en termes de progrès et de main tendue. Mais il y a combien de mains dans cette histoire? Pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Je cite, hein, dans une ville qu'on peut considérer comme un peu à droite, mais par contre avec une main gauche du maire et un équilibre en termes de progrès et de main tendue, pour ne laisser personne sur le bord du chemin. C'est Shiva. Par contre, oui. Ah oui, parce que la candidate LFI n'a pas passé les 10%. Oui. Donc tous les regards se tournent désormais sur la liste d'Union de la gauche socialiste écologiste communiste qui a obtenu près de 12%. Peut-elle se retirer pour empêcher la prise de pouvoir de Ciotti? Pour Estrosi, la clé passe sans doute en grande partie sur les électeurs de gauche. Voilà. Avec un second tour plus animé que jamais. C'est vrai que la campagne du premier tour était très tendue, une histoire de tête de cochon, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire à Nice. Un proche de Ciotti prévient, ça va être Armageddon. Eh ben, Nice, c'est chaud, hein. comme le dit Exutoire, attention aux mains tendues, ça peut porter à confusion, on est bien d'accord. Voilà, Polovar, merci beaucoup. Bienvenue. En tant qu'électeur de gauche à Nice, c'est compliqué de voter Estrosi. Entre les caméras, ses propos pro-gouvernement israélien sans aucun recul, ses casseroles et toutes les affaires qui le suivent, voilà. En fait, c'est pas bien mieux. Mais, nous dit Polovar, Ciotti, c'est quand même l'extrême droite. Merci Popovigno. Merci Ricotim. J'ai cru comprendre que c'était un proche de Estrosi, l'histoire de la tête de cochon, caméra vidéo, c'est confirmé, il y a une enquête qui est en cours, le qui on n'a aucune certitude là-dessus. Je vous rappelle l'histoire de la tête de cochon, c'est une tête de cochon qui a été retrouvée, je crois, je ne sais plus devant quel bâtiment, devant une permanence d'Estrosi. Donc on se dit, ah ben, alors, qui a fait ça pour nuire à Estrosi? Et puis alors il y a une enquête qui a été ouverte, l'histoire était un peu bizarre, et que dans les gens entendus, c'est plutôt des proches d'Estrosi. Donc, est-ce que c'est une petite carabistouille, une manipulation de proches d'Estrosi pour que comment dire, pour le victimiser, hein, à supposer que ce soit des proches d'Estrosi qui l'ont fait. Estrosi était-il au courant? Voilà, ce sont les questions. Mais il n'y a aucune certitude dans cette histoire. Voilà. Enfin bon, le niveau de la campagne. Bon, voilà pour Nice, rendez-vous dimanche soir. Marseille, Paris, Marseille, Nice déjà, voilà. Il y a des grosses attentes. Ça va être très intéressant à suivre dimanche soir. Bon, ben, moi, pas de coup de menton pour Louis Sarkozy, voilà, l'héritier, qui n'est pas parvenu à renverser le RN à menton. Je crois qu'il est troisième, voilà. Il est combien? Il est combien? Il est troisième, 18%. La candidate RN a fait 36,25%. Bon, c'est ce que disent les sondages. Et maintenant, il appelle à une logique de rassemblement pour faire barrage au RN. Oui, je sais, Menton n'est pas une fille si facile que ça. Oui, c'est à un moment, il avait déclaré ça. Ouais. Quand il a vu qu'il était un peu à peine dans les sondages, il a vu une phrase un peu malheureuse sur « Ah, mais Menton n'est pas une fille si facile que ça, elle se fait désirer, il faudra que je revienne. » Effectivement, c'est à ça que tu fais allusion. Quelqu'un me dit ah mais du coup il est pas sur les mêmes positions que son père Nicolas Sarkozy par rapport au RN. Bah on va dire pas au niveau local en tout cas. C'est pas une phrase malheureuse Samuel, c'est un pur déchet masculiniste, me dit Verena Harkness. Oui, phrase un peu malheureuse effectivement, c'était comment dire. Il y avait un peu de second degré dans ma phrase. Alors, un bon succès, un bon résultat également pour le RN, c'est à Toulon, avec Laure Lavalette, qui est arrivée en tête au premier tour. Voilà, on a 42% pour Madame Lavalette. 42%. C'est un très bon score pour la candidate. Voilà. Ensuite, c'est un candidat d'hiver droite. Une candidate, José Massy, 29,5%. Et après, vous avez un autre candidat de droite. Et en Toulon, c'est Michel Bonus. Et malgré son nom, il est arrivé troisième. 15,71%. Le second tour proposera donc un face-à-face sans la gauche, dont les candidates ont été éliminées dès le premier tour. Michel Bonus. Le candidat des Républicains arrivé troisième avait annoncé qu'il se déciderait en faveur de José Massy. Donc la deuxième candidate qui est d'hiver droite, si cette dernière le précédait. Donc il y a une alliance qui s'annonce entre José Massi, 29,5%, et Michel Bonus. Si on additionne, mais ça marche jamais comme ça, hein, les appels à l'union des appareils et des têtes de liste, c'est pas forcément suivi par les électeurs. Les électeurs, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est pas mathématique. Mais si on additionne, on va dire 30 et 15, ça fait 45%. Donc il y a un monde où l'union de la droite, on va dire républicaine traditionnelle, peut battre Laure Lavalette. Mais ça marche pas comme ça. Hein. Ça marche pas comme ça, les additions politiques. Tout porte à croire qu'un scénario de type front républicain va se mettre en place, écrit le Parisien. Maintenant, la question c'est, voilà, très bonne question, que feront les électeurs LR, orphelins de leur candidat, qui auraient pu se maintenir au second tour, voilà. Est-ce qu'ils vont voter à droite traditionnelle, ou est-ce qu'ils vont s'abstenir, ou est-ce qu'ils vont voter RN? Il y a un sondage, mais que valent les sondages qu'on s'est serré comme ça, publié il y a quelques semaines, qui donnait Lavalette battue, donc la candidate RN, en cas de duel frontal au second tour face à José Massi. Ça va être très serré. Ça, pour le coup, Toulon, qui tomberait dans le camp de l'extrême droite, serait une bonne nouvelle pour le RN. Rendez-vous dimanche soir. Bon, là, il faut que je me lance un petit café, là. Hein. On va faire un point sur Lyon, avec la bonne surprise du maire écologiste sortant, là, qui a rattrapé Jean-Michel Aulas. Grenoble, quelqu'un me demandait Grenoble, avec le retour de Carignan. Le bon score du LFI Guiraud à Roubaix. Le retour de Catherine Trottmann à Strasbourg. Bordeaux. Voilà. Et après, on fera le point sur les partis. Okay. Je vais me chercher un café. J'en ai pour 10 secondes. Ça, il faut que je me relance, là. J'arrive, bougez pas. Et je vous remets là. Après, sur les parties, non, parties, pas mes parties. Hein. Il y a un gros sommaire, vous verrez rien. Partie sans eux. Ça marche pas avec cette scène. Il faut qu'il y ait le sommaire. On ne voit rien. Il n'y a pas de Zizi Gate. Il n'y a pas de Zizi Gate. Il y a un trop gros sommaire. Pour l'exclamation Zizi Gate, pour la vérité. Pas les mensonges des comptes sur X. Eh oui, les gens vous mentent. Hein. Il n'y a pas de Zizi Gate. Parce qu'il y a un sommaire. Eh oui, mon café est prêt. Hop. On continue ? On est des gens sérieux ici. Donc, on continue avec les villes. Doucet, c'est la bonne surprise et la bonne nouvelle pour lui, en tout cas, le maire écologiste sortant, qui était à un moment qui était distancé par Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'OL. Je vous mets la scène. Voilà. Et donc, finalement, il a réussi à rattraper son retard. C'est un peu la remontada. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a les résultats bruts, là, monsieur Doucet, donc le maire écologiste sortant à 37%. Coup à coup de Jean-Michel Aulas, qui est peu ou prou au même score, hein. Et vous avez une candidate LFI qui peut se maintenir, hein, 10,3%. Alors, ce qui va être très intéressant, mais l'article le dit peut-être, c'est ce qui va se passer entre M. Doucet et Mme Belouassa Chérifi. Let's go, j'ai envie de dire. C'est passionnant la politique en vrai. Hein. Énorme ! Surprise à Lyon ce dimanche soir, comme mon sommaire, c'est énorme, où Jean-Michel Aulas se retrouve à l'issue de ce premier tour au coude à coude avec le maire écologiste sortant, Grégoire Doucet. Pour M. Aulas, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Grand favori, Aulas n'imaginait pas un tel scénario en début d'année, lui qui caracolait en tête des sondages avec 47% des intentions de vote contre 23%. Vous vous rendez compte? Il y a eu 24% à un moment de delta entre les deux hommes. Et ils ont le même résultat. Monsieur Aulas a raté sa campagne. Hein, comme le dit CO39, le débat diffusé sur BFM a fait beaucoup de mal à Aulas. Voilà. Et en fait, bah, Monsieur Aulas, il a raté sa campagne. Il a fait un débat télévisé, ça s'est très mal passé. Tout le monde a trouvé qu'il n'était pas très bon, qu'il n'avait pas les réponses. Et puis après, il a refusé de faire d'autres débats, il a refusé des interviews à des journalistes. Voilà. Et la remontada, elle s'est faite là. Hélas pour Aulas, exactement. Ma coquine me dit, il n'a pas fait campagne, et quand il l'a fait, ça a été mauvais. Ouais. Alors évidemment, on ne se dit pas vaincu. Hein. Voilà. Du côté du camp Aulas, ses soutiens ont pris un coup sur la tête, mais croient encore à la victoire. Voilà. Du côté des écologistes, au contraire, on est joyeux. Voilà. Parce que ce n'était pas du tout ce qui était attendu. C'est une bonne nouvelle aussi pour les écologistes au niveau national, puisque vous savez que ce qui était attendu, c'était un gros recul des élus écologistes par rapport au municipal de 2020. Et recul, il y a certes, mais peut-être pas aussi important que certains le pensaient. Alors, qu'est-ce que va faire la candidate LFI? Conscient du défi qui se présentait face à lui, Grégory Doucet n'a jamais fermé la porte lors de la campagne de premier tour à une alliance avec LFI lors du second tour. Alors, quelqu'un me disait tout à l'heure que... Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Belouassa Chérifi? Ça, c'est intéressant, ça. Alors, Internet. Belouassa. Voilà, Anaïs. De son prénom. Prêt à discuter. Pop, pop, pop. Actualité. Nous sommes prêts à discuter. Nous sommes prêts à discuter. OK. Oh là là, je m'en fous, moi. Tac. Voilà. Elle est très jeune, la candidate, là. C'est bien qu'il y ait des jeunes gens en politique qui s'investissent. Ok. Elle a rapidement tendu la main au maire sortant écologiste. Oh, ah, oui, vous aviez raison, quelqu'un me dit. Vous êtes fort, hein. Je mets tout en question toujours, moi. Je voyais dans le chat, ah, mais ça, elle a ouvert. Elle appelait une fusion technique, et puis je ne l'avais pas lu, donc je ne voulais pas le dire. Oui, vous avez raison. Ouais. Donc, elle a rapidement tendu la main au maire sortant écologiste, ouvrant la porte à une fusion technique entre leurs deux camps. Bon, ben là, ça va être très compliqué pour Aulas. Hein. Potentiellement, au second tour, s'il y a une prise de responsabilité de la part de Grégory Doucet à nous appeler. A discuté autour d'une fusion technique, donc malgré les appels à ne pas fusionner au niveau national par Olivier Faure, Lyon restera une ville de résistance face à la droite et l'extrême droite, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. Je pense que M. Doucet va être tenté quand même de saisir cette main tendue, par la candidate LFI. Ok, là je vois mal comment M. Aulas va pouvoir se remettre de ça. On va voir, je ne veux pas faire de pronostic. Rendez-vous quand, ceux qui suivent? Rendez-vous. Merci. Rendez-vous. Je suis tout seul. Non, pas en 2029. Merci MMG. Non, pas au premier virage. Oui, merci. Dimanche soir sur cette chaîne. Hein? Alors, j'avoue que je fais mine d'ignorer la question parce que j'ai pas la réponse, mais on va répondre collectivement. Quelqu'un me dit, mais ça veut dire quoi, fusion technique? Et comme j'avoue que j'en ai aucune idée, eh ben je fais mine de ne pas voir la question. Puis après, je me dis, Samuel, t'es vraiment pas honnête. Sois honnête, tu sais pas. Alors, fusion technique, est-ce que ça veut dire que c'est une fusion je sais pas. C'est une fusion qui n'est pas programmatique. C'est juste. Ça veut dire quoi? C'est une fusion, mais technique? Merci beaucoup. C'est juste le fait de se retirer au profit de l'autre, mais tu as un siège garanti dans l'autre liste? C'est ça? Fusion, pas sur le programme, ok, c'est ce que j'avais compris. Ah ok, bah vous avez raison, d'accord, c'est ça. Donc c'est pas une fusion sur le programme, mais on met des conseillers des deux listes. Ah ouais, donc ils se partagent le truc, d'accord. Ok. En opposition à fusion programmatique. Bon, c'est ce que j'avais compris, mais je voulais être sûr de ne pas dire de bêtises. Alors, merci à Mrouflard qui précise carrément, deux points ouvrés les guillemets, concrètement, une fusion technique consiste à fusionner les listes du PS avec LFI, comme ça, sans accord de programme, avec des candidats insoumis qui intègrent la liste socialiste et donc pourront être élus au conseil municipal, mais seront dans l'opposition au conseil municipal une fois élus. Ah ouais ? Ah, c'est vachement intéressant. Les candidats LFI municipaux élus à Lyon seront dans l'opposition. Ah, c'est vachement intéressant. Bon, bah merci. Grâce à vous, on a tout compris. Grenoble, vite fait. Alors, c'est le retour de Carignan, l'ancien maire de Grenoble. Hein, on a 26% pour M. Carignan, 26,84. Juste devant Laurence Ruffin, 26,77. Le candidat LFI peut se maintenir. Le candidat d'hiver gauche peut se maintenir. Voilà aussi, quand on voit, si tu additionnes les voix de la gauche, ça semble compliqué pour Carignan, non ? Carignan qui avait dirigé Grenoble de 83 à 94, avant d'être condamné, rappelle le Parisien, à 5 ans de prison, donc 4 ans ferme. Il a fait 4 années de prison ferme pour corruption et abus de biens sociaux. Et aujourd'hui, Carignan qui a fait campagne notamment contre le trafic de drogue à Grenoble. Okay. Il y a des Grenoblois dans le chat là? Oui, et alors? Oh, il y en a plein, vous êtes trop mignons. Vous avez de la chance, hein, ça va skier à Champs-Rousses un peu là-bas, non? Et donc, la situation à Grenoble? Ancienne Grenoble, je ne comprends pas que Carignan puisse faire autant. Ouais. 26%. Villard-de-Lans, magnifique Villard-de-Lans. Magnifique. J'ai skié à Villard-de-Lans quand j'étais petit. Beaucoup, moi. Beaucoup. Station de moyenne montagne, on peut dire. Station très familiale. Ok. Merci, Naughty Scorpion. Ok. Et puis Roubaix. Alors, Roubaix, c'est l'un des meilleurs scores de LFI. Hein. Puisque nous avons David Guiraud pour la France Insoumise qui a quasiment été élu dès le premier tour. Guiraud en passe d'offrir une belle prise à LFI, ce qui est la concrétisation de l'investissement de LFI dans ses municipales, hein, et du RN aussi, donc parmi les grands gagnants de ce scrutin. Je vous le disais au tout début de cette revue de presse, effectivement, on peut considérer qu'il y a le RN qui part de très loin au niveau municipal mais qui progresse, LFI qui part de très loin au niveau municipal mais qui progresse, et l'autre grand gagnant, et là c'est l'abstention aussi. On parlait du retour d'un revenant Carignan, retour d'une revenante à Strasbourg, Madame Catherine Trottmann, hein, qui a été maire longtemps de la ville, voilà, et qui est en tête avec 25,93% des voix pour le PS. Le candidat LR est juste derrière, 24-23%. Vous avez une candidate écologiste de gauche, écologiste PCF Place Publique, qui est très haute aussi, 19,72. Et vous avez un candidat LFI très haut à 12%. Quadrangulaire. Qu'est-ce qui va se passer? Donc vous avez 1, 2, 3. Vous avez 3 candidats de gauche qui peuvent se maintenir. On a une quadrangulaire qui pourrait devenir une triangulaire en cas d'alliance. Vous aviez 12 listes qui étaient en lice à Grenoble. Ah, pardon, à Strasbourg. C'est le comeback le plus inattendu de ce premier tour des municipales à Strasbourg. L'ancienne ministre socialiste Catherine Trottmann, 75 ans, qui fut maire de la ville entre 89 et 97, puis de 2000 à 2001, est arrivée en tête de ce scrutin. Donc là, puisque la maire sortante était une élue écologiste, c'est vrai que Là, c'est une illustration du recul des écologistes au niveau municipal. Ouais. Bordeaux, qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? Je vais un peu plus vite, hein. Pierre Urmic, donc gauche, écologiste, gauche, Alliance de la gauche, Or et les filles, 27%. Thomas Cazenave, Renaissance, 25%. Philippe de Sertine, la grosse surprise, l'économiste, société civile, officiellement sans étiquette, mais plutôt cassé à droite, 20%. Alors ça, c'est très impressionnant. J'espère que l'article en parle. Lisons. L'alternance est-elle possible? L'ambiance n'est pas au cotillon, glisse un sympathisant de Pierre Urmic à un autre dans la permanence de campagne du maire écologiste. Voilà, va-t-il être sorti ou pas? Le maire sortant est en tête, mais en deçà de ce que prévoyaient les sondages. Les résultats sont consolidés. Pierre Urmic, 27% des voix au coude à coude avec le Renaissance Thomas Cazeneuve. L'économiste, c'est lui. Philippe de Sertine, divers centres, certains considèrent qu'il est plutôt à droite, arrive en troisième position. Il y a eu un effet vu à la télé, il a plu à un électorat de plus de 65 ans, disent certains. Ce dimanche soir, le député bordelais NFP est conscient que sans union de la gauche, ce sera arithmétiquement compliqué de garder la mairie de Bordeaux. On n'est plus en 2020 où il y avait une vague verte. La désunion est un euphémisme. Sept listes à gauche et à l'extrême gauche. Incroyable. Et qu'est-ce que va faire l'économiste là? Thomas Cazenave qui est arrivé en deuxième position. Les Bordelais veulent changer de maire. Ce soir, je suis au coude à coude avec Pierre Urmic. L'alternance est possible, dit l'ancien ministre. Après l'annonce des résultats, il a fait un appel solennel à Philippe de Sertine, mais aussi à tous les électeurs qui souhaitent l'alternance à Bordeaux. Appel ignoré par le médiatique économiste qui, avec ses 20,16% de voix, a de nouveau exclu toute alliance pour le second tour. Ah bon? Ah, il veut des élus, quoi. D'accord. Intéressant. Et dans ce cas-là, ça favoriserait, hop, le maire sortant. Très bien. À suivre. Rendez-vous? Rendez-vous quand? Rendez-vous quand pour la suite? Rendez-vous? Dimanche! Non, pas demain matin. Demain, fin de journée, mardi, pour savoir quelle liste. Non, pas rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Ah, là, vous suivez pas. Voilà. Rendez-vous dimanche. Alors, maintenant, on passe. Quelle heure il est? 10h46, ça va. Je prends le temps ce matin sur les municipales parce que c'est quand même assez important. On passe sur les résultats, non pas ville par ville, mais troisième thème. Les résultats parti par parti. Comme on se dit déjà beaucoup de choses, on va aller relativement vite. Le RN se félicite de sa poussée. Bon, bah, je vous le disais, hein, il y a une progression. C'est pas un raz-de-marée. J'ai dit FN, peut-être, non? Bon, c'est pareil. Faites pas attention, c'est pareil. Le RN se félicite de sa poussée. C'est pas une poussée astronomique, mais c'est une progression et c'est un bon score pour le RN. D'autant que le RN n'était pas présent dans toutes les communes. Donc on suivra notamment Toulon, on suivra Marseille, on suivra ce que va faire Saracnafo à Paris. Ok. Les Républicains appellent à battre la gauche et le RN. Ok, donc pour l'instant, vous voyez, la grande question, c'est est-ce qu'il y a rapprochement? Est-ce qu'il y a rapprochement de la droite et de l'extrême droite? Si vous écoutez Bruno Retailleau, le président de LR, pour l'instant, non. En tout cas, pas au niveau national. Au niveau local, il peut se passer des choses, peut-être, on verra. Mais en tout cas, Bruno Retailleau, lui, il appelle à battre la gauche et le RN. À suivre. Le PS, ça je vous le disais tout à l'heure, le PS surpris par la percée de LFI. Les socialistes n'attendaient pas de si bons scores de LFI. Les socialistes vont devoir composer avec les candidats insoumis dans l'optique des seconds tours. Voilà. Ça c'est très intéressant. C'est loin d'être décevant pour nous, dit-on côté socialiste, mais on a quelques mauvaises surprises qu'on sait d'un cadre du PS en sortant d'un plateau télé. S'ils peuvent se targuer de rester la première force à gauche du pays, les socialistes vont devoir composer avec leurs encombrants ex-alliés qui vont plaider pour des fusions techniques. Ça y est, maintenant je sais ce que c'est une fusion technique. De quoi mettre dans l'embarras les troupes d'Olivier Faure. Jean-Luc Mélenchon ne s'y est pas trompé. Une stratégie et un projet ont correspondu à un état du pays de ses attentes populaires. Ils ont permis à la France insoumise d'effectuer une magnifique percée dans les municipales, s'est réjoui le leader de LFI. Tous les types de villes sont concernés. Bon, vous avez compris que M. Mélenchon se félicite. Avant de remettre la pression sur ses anciens partenaires du PS, qu'il a voué pourtant aux gémonies lors de la campagne du premier tour. Voilà. Et en déclarant, la France insoumise travaille pour former un front unique et mettre en échec la droite et l'extrême droite, la main tendue doit être saisie. Olivier Faure, lui, a rejeté la ligne défendue, a répété pardon, la ligne défendue par le PS, assurant qu'il n'y aura aucun accord national entre le PS et LFI au second tour. Aucun accord national. Puis, toujours Olivier Faure, de dresser des barrières avec l'ancien sénateur socialiste, coupable, selon la direction du PS, d'avoir tenu des propos complotistes et antisémites. Olivier Faure qui en rajoute une petite couche. La stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon a montré ses limites. Il n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire et de barrer la route à l'extrême droite. Olivier Faure qui, très important, n'a toutefois pas évoqué d'éventuelles alliances locales, laissant sciemment la porte ouverte. Bon, là, vous avez le résultat ville par ville de LFI, mais ça, on l'a déjà vu. Tu penses, Sugar? Sugar n'est pas d'accord avec la lecture que je faisais de Bruno Retailleau. Sugar nous dit la seule consigne que Retailleau a donnée, c'est aucune voix pour LFI. Il appelle au rassemblement de tous les électeurs de droite derrière le candidat capable de battre la gauche dimanche prochain. Il ne semble pas dire non au RN. Et là, le Parisien, qui cite Retailleau, dit que les Républicains appellent à battre la gauche et le RN. Je rentre dans le détail. Parce que c'est très important, ça. Dans son allocution, alors, le Parisien ne cite pas son tweet, mais son allocution. Bruno Retailleau a incité les électeurs à se mobiliser dimanche prochain, les appelant au grand RN pour battre la gauche ou le RN. Là où c'est possible, c'est relativement clair du coup. Ça semble pas tellement union des droites, ça. C'est son allocution d'hier soir. En tout cas, il n'y a pas d'appel clair aujourd'hui de Retailleau pour l'union des droites, quoi. Les Verts partis pour sauver les meubles, donc ça c'est intéressant. Hein. Donc normalement on attendait un gros recul de la vague écologiste d'il y a 5 ans. Voilà, on va voir ce qui va se passer, mais voilà. Les scores sont meilleurs que prévu. Et puis le camp présidentiel face au risque de l'effacement. Bon, ça, que la Macronie ait des difficultés et du mal. Ça, voilà. Est-ce que le macronisme va survivre à la fin du deuxième mandat du président Macron? De toute façon, au niveau local, le macronisme a été toujours quasi inexistant et il ne perce pas lors de ces élections. Voilà les amis, pour ce petit tour de table des municipales, on a fait 1h30, puisqu'on a fait un petit bonjour de 15 minutes, on a fait 1h30 sur les municipales, après une spéciale de 3h hier soir. Voilà, donc on fait une petite pause, on y revient sûrement demain, parce que demain on va parler des alliances, et surtout mercredi matin au lendemain de la limite qui est donnée à demain mardi 18h pour les alliances post-premier tour. Voilà. Ok. Voilà. Si on a le temps à la fin, pour ceux qui ont raté un petit peu cette grosse page municipale, on refera un petit tour sur les résultats avec l'opinion. Ok. Voilà. Et là on va parler de monsieur Nicolas Sarkozy. Nouveau procès. Encore. Bis repetita. Enfin, aucune surprise. Hein. Aucune surprise puisque c'est le procès en appel. Hein, puisqu'il a fait appel, procès en appel, dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Alors, nouveau livre, oui, alors c'est Libération qui rigole de ça, du coup, est-ce qu'on aura le droit à un nouveau livre? La question, c'est surtout, va-t-il revenir en prison, retourner en prison? Affaire du financement libyen, Nicolas Sarkozy jugé en appel, les prémices d'un nouveau livre, s'amuse Libé. Le procès en appel du financement de la campagne présidentielle de 2007 de l'ex-chef d'État, qui comparaît avec 10 autres prévenus. Rappelons que Nicolas Sarkozy est rentré dans l'histoire politique de notre pays. Ah, je vous ai même pas mis, je vous ai même pas mis l'article, pardon. Nicolas Sarkozy est rentré dans l'histoire politique de notre pays. Jamais un président de la Ve République n'avait fait de la prison ferme. Jamais. Eh bien, c'est pas donné à tout le monde. Eh bien, c'est pas donné à tout le monde. Du coup, il en a fait un livre. Et là, c'est le procès en appel. Le procès en appel du financement de la campagne présidentielle de 2007 de l'ex-chef d'État, qui, comparé avec 10 autres prévenus, s'ouvre aujourd'hui à Paris. En première instance, il avait écopé de 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, puisque les autres chefs d'inculpation avaient été abandonnés. Et il avait effectué 20 jours de détention, voilà, pendant lesquels il avait notamment écrit un livre. Il mangeait des yaourts aussi. Lisons un petit peu cet article. Merci, Quick, pour le soutien. Il a eu le temps d'effectuer un petit tour en détention provisoire et de se préparer à enfiler un nouveau bracelet électronique pour sa condamnation définitive dans l'affaire Big Malion, c'est une autre affaire, voilà, et de publier un livre best-seller où revoilà l'ancien président devant les juges moins de 6 mois après avoir été condamné à 5 ans de prison ferme. Nicolas Sarkozy comparé devant la Cour d'appel de Paris à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3 juin. Oh là là. Trois mois ? Mars, avril, mai. 3 mois de procès ? À raison de 3 ou 4 audiences par semaine ? Waouh ! C'est énorme. Pour l'affaire du financement de sa campagne pour la présidentielle de 2007 par le régime de Kadhafi, le dictateur qui a régné sur la Libye de 69 à sa mort. C'est énorme. S'il a été condamné, effectivement, le 25 septembre à de la prison ferme avec mandat de dépôt, donc hop, directement en prison, après l'audience pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, à une amende de 100 000 euros, ainsi qu'à l'interdiction de toute fonction publique et la privation de son droit d'éligibilité, les deux peines complémentaires assorties d'exécution provisoire pendant 5 ans, les magistrats reprennent l'affaire telle qu'elle est sortie du cabinet des juges d'instruction. En l'absence d'un mort, Ziad Takedin, qui n'est plus, et d'un milliardaire saoudien définitivement relaxé, Nicolas Sarkozy comparaît aux côtés de 10 autres protagonistes, déjà jugés en première instance, mais tous ont constaté et ont fait appel. Selon les magistrats, rappelons ce dont est accusé M. Sarkozy, le candidat à la présidentielle de 2007 a bénéficié d'un canal de financement ouvert par Kadhafi. Combien a-t-il perçu ? Faute de virement direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de virement direct dans cette histoire. Il n'y a pas de trace de virement direct entre la Libye et le compte de campagne. Bon, en général, ce genre de financement, disons, est un peu plus discret. Combien a-t-il perçu ? Faute de virement direct à la campagne de l'ex-président, la défense de Nicolas Sarkozy a souvent martelé qu'il n'y avait aucune preuve d'un pacte corruptif. Hein ? S'il n'y a pas de trace de virement direct, il n'y a pas de corruption, avait dit la défense. Argument écarté par les juges de première instance et avant eux par les magistrats instructeurs dans leur ordonnance. Dans les dossiers économiques et financiers, il n'existe pas d'évidence, ont écrit ces derniers. Il existe des flux qu'il convient de resituer dans un contexte à l'aide de témoignages d'analyse documentaire. Dans ce dossier hors norme et dense, le jugement de première instance a écarté nombre de pistes, de témoignages et d'éléments jugés imprécis et manquant de cohérence entre eux. Ainsi, l'ancien président a été relaxé de plusieurs chefs d'inculpation, de corruption, de recel de détournement de fonds et de financement illégal de campagne. La seule inculpation qui a été retenue, pour laquelle il a été condamné, c'est celle d'association de malfaiteurs. C'est donc là tout l'enjeu du procès en appel qui débute responsable mais pas coupable. Mais si, il a été condamné. Il y en a qui ne suivent pas. Hein. Responsable mais pas coupable. Mais si, il a été condamné. Il a fait de la zonzon. Puis il n'a jamais dit qu'il était responsable d'ailleurs. Sarkozy, il n'a jamais dit responsable mais pas coupable dans sa ligne de défense. C'était non, il n'y a rien. Walou, Kutchi, nada. Oui, oui, ref aux inconnus, mais qui n'a aucun sens par rapport à ce dont on parle. On s'en fout. C'est une blague, très bien, mais elle est drôle si elle a un lien avec l'affaire. Mais ça n'a jamais été la ligne de défense de Sarkozy. Sarkozy, il ne dit pas « je suis responsable mais pas coupable ». Il dit, il n'y a rien, il y a Walou, il n'y a que dalle, montrez-moi les preuves. Donc la blague ne marche pas. Chut, carton rouge. Chut. Voilà. La VAR a parlé, la blague ne marche pas. Non, 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 soyons sérieux. Donc c'est tout là l'enjeu du procès en appel, reconnaît un proche de Nicolas Sarkozy, dont les faits paraissent indéniables, autant aux yeux des magistrats instructeurs que des juges de première instance. Il est donc, revenons sur les faits, établi que Claude Guéant, le plus proche collaborateur de Sarkozy au ministère de l'Intérieur, et numéro 2, Brice Hortefeux, l'ami intime du futur candidat à l'Élysée, ont rencontré à deux reprises, en 2005 de manière secrète, Abdallah Sennoussi, le beau-frère de Kadhafi, numéro 2 du régime libyen et chef terroriste à l'époque. Ce dernier qui est notamment reconnu coupable d'avoir fomenté l'attentat contre l'avion DC-10 du TA dans lequel 170 morts ont trouvé la mort. 70 personnes ont trouvé la mort. Fait qui lui ont valu une condamnation en France. Donc les deux hommes, ça c'est sûr, ont rencontré le monsieur. Les explications embrouillées à l'audience de Guéant et Hortefeux sur leur rencontre occulte avec Sennoussi ont paru dénuées de toute crédibilité au juge en septembre 2025. Le contexte de l'époque, dans un contexte de retour de la Libye sur la scène internationale et de développement du nucléaire civil voulu par Kadhafi, Sennoussi tente de négocier un réexamen de sa situation pénale. Quelques semaines plus tard, en janvier 2006, un virement de près de 3 millions d'euros. Parce qu'il n'y a pas virement direct sur les comptes de la campagne de Sarkozy. Mais il y a un virement de près de 3 millions d'euros en provenance de quoi? D'où? Du trésor public libyen, ok. Où arrive-t-il? 3 millions. Sur le compte d'une société contrôlée par Ziad Takieddine, le monsieur qui est mort il n'y a pas longtemps, là. Voilà. Quelques mois plus tard, en décembre, un autre virement de 2 millions aurait également été retrouvé sur ce compte. 2 millions. La mention de ces deux flux financiers a également été retrouvée dans un carnet de l'ancien ministre du pétrole, Goukri Ghanem. À cette époque, Ziad Takieddine est partout avec les plus fidèles compagnons de Nicolas Sarkozy. Il fréquente intimement Claude Guéant, participe avec lui au rendez-vous avec Sennoussi, de même qu'à l'entrevue entre ce dernier et Brice Hortefeux. Comme dit Guéguette Zipette, ça fait beaucoup. Le voyage du futur chef de l'État en personne en Libye le 6 octobre 2005 est également un fait matériel retenu par les juges. Traduction juridique de tout ce qu'on vient d'évoquer. Ainsi en ont décidé les juges de première instance, il existe de ce faisceau d'indices graves, précis et concordants, qu'il a bien existé une entente entre Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Ziad Takieddine, afin de préparer l'infraction de corruption active et passive d'agents publics au préjudice de la Libye depuis 2005 et jusqu'à la veille de l'investiture de Nicolas Sarkozy en mai 2007. D'où le chef retenu pour la condamnation d'association de malfaiteurs. Le but était obtenir l'engagement de la Libye et accorder un soutien financier au candidat à la présidentielle, en échange de quoi? D'un engagement à maintenir les relations bilatérales engagées depuis 2004, notamment. Voilà, je vous lis l'essentiel de l'actu. Si, alors, pour le coup, si l'info vous intéresse, vous avez un article dans Le Parisien qui est très complet dessus. Vous avez cet article dans Libération et il y a un autre journal qui a fait un article là-dessus. Bon, maintenant, il y a 3 mois de procès. On va voir ce qui se passe. Ce sera intéressant de voir. Peut-être que la cour d'appel va infirmer le jugement de première instance, hein, et dire que Nicolas Sarkozy a été injustement condamné. Ou pas. On va voir. Si, bien sûr, ouais. Alexei dit, on a tout un discours ces derniers temps qui revient sur le manque de confiance des Français envers les politiques. Est-ce que ces affaires ne sont pas extrêmement dommageables pour la confiance des Français envers leur politique? Oui. Cyril me dit, non, non, Samuel, la cour d'appel ne va pas infirmer le jugement de première instance. J'adore quand le chat arrive à prédire une décision de justice qui est prévue pendant 3 mois. Les magistrats vont apprécier. Cyril, que j'adore, Cyril, moi, ce que je te propose, c'est que tu prennes contact avec la Cour d'appel de Paris. Il y a 3 mois de boulot qui va coûter de la thune aux contribuables. Bah, dis-leur que le truc est plié, hein. Dis-leur que c'est pas la peine. On va faire des économies. Attendez, je crois que c'est le moment ou jamais.
Qu'avez-vous à dire pour votre défense?
Wallah, c'est pas moi.
Bon bah acquitté, acquitté, tu peux y aller. Ah bah il a dit voilà. Ah bah si, 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 voilà, ça marche.
Est-ce que c'était pas le moment idéal pour le mettre? Voilà. Rendez-vous dans 3 mois. Bon, peut-être qu'on aura quelques comptes rendus des audiences d'ici là. Allez, maintenant, l'affaire Netanyahou. Alors là, voilà. Ce week-end, pendant mes streams, à droite, à gauche, voilà, j'ai vu des gens dans le chat qui me disaient « Ah, mais Samuel, t'as vu les rumeurs sur Internet, sur X, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, serait mort, mais on nous dit pas la vérité, on nous cache, pourquoi les médias traditionnels n'en parlent pas ?» Bah parce que les médias traditionnels sont en train de vérifier cette info pour voir si c'était pas du caca, voilà. Et a priori, c'en était. Voilà. Article dans Le Parisien ce matin. Vous savez quoi, on va en parler à nos amis YouTube. Je recommence tout depuis le début parce qu'on va faire un. On va mettre ça sur YouTube aussi. Ne faites pas ça à la maison, c'est à réserver aux professionnels. C'est un geste très technique, très, très périlleux. 3, 4. Amis YouTube, un grand bonjour. Vous êtes dans la matinée tienne sur Twitch et dans la revue de presse de ce lundi matin, on a décidé de vous mettre en avant cet article du Parisien sur la. A priori, fausse mort de Benjamin Netanyahou. Hein, depuis 2 jours, tout le week-end, des gens ici m'ont dit « Mais Samuel, pourquoi tu parles pas de cette mort de Netanyahou qui est annoncée sur X? Il y a plein de comptes qui disent qu'il est mort, voilà, mais pourquoi les médias traditionnels n'en parlent pas? Voilà. » Et ben, les médias traditionnels, ils sont en train de vérifier cette info, et a priori, cette info était fausse. A priori, c'est ce que raconte l'article du Parisien. Amis de YouTube, vous voyez que les amis de Twitch sont en train de vous dire bonjour dans le chat, hein, n'hésitez pas à répondre. Une guerre où le fake est roi. Lors du conflit en Iran, le contrôle du narratif est devenu primordial. Ce week-end, des comptes X, comme par hasard, le réseau du Shétan, ont annoncé la mort du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, culminant des millions de vues. Donc là, c'est intéressant parce que l'information, a priori, est infirmée, démentie. Voilà. Mais parfois, il y a des informations comme ça qui ne sont pas démenties, voilà, ou dont les démentis sont absolument pas lus, et vous avez des millions de vues, littéralement des millions de personnes qui ont vu cette info et qui vont peut-être encore y croire pendant quelques jours. Lisons l'article d'Enzo Guerini dans Le Parisien. Impossible ou presque. J'ai du démentu, j'ai du démentu. Mais non. La fatigue de la vieillesse du streamer français. Impossible ou presque d'ouvrir X sans voir son visage. Dans un week-end pourtant chargé en actualité en France, où le premier tour des municipales et le sacre des Bleus du rugby. Ouah, ça a été chaud le match du rugby. Hein. Lors du tournoi Destination, occupe près d'ordinaire tous les débats sur le réseau social. Je suis pas sûr que sur X, il se passionne pour le rugby. Je pense qu'il s'intéresse plus pour l'histoire de Zizi, moi. Hein? Enfin, sur les fausses histoires de Zizi, pour l'exclamation Zizigate dans le chat. Non. Je suis pas sûr qu'il soit très rugby, moi. En termes d'ovalie, ils sont pas trop sur le ballon, ils sont sur d'autres trucs. Et pourtant, malgré cette actu très importante, c'est Benjamin Netanyahou qui inonde les algorithmes. Et pour cause, une folle rumeur est partagée sur le réseau social d'Elon Musk. Alors ça, c'est étonnant qu'une rumeur soit née sur X, hein, ce réseau social avec une qualité de modération, hein, avec un algorithme tellement, tellement chill qui ne pousse pas du tout les contenus problématiques, violents, non vérifiés. Alors ça, c'est vraiment, je tombe de ma chaise. Je vais pas vous faire la cascade parce que j'ai les articles à vous lire. Mais vraiment. C'est incroyable que ce soit sur X. Une folle rumeur est partagée sur le réseau social d'Elon Musk, le Premier ministre israélien serait mort, éliminé dans une frappe iranienne. Où? Quand? Lors de quelle opération? T'inquiète. T'inquiète. Source, t'inquiète. Aucun de ces comptes X qui relaient cette information ne se soucie de répondre à ces questions. Ouais, c'est la base. Quelle est la source de l'information? Où est-ce que ça s'est passé? Quand? C'est l'info sur X, quoi. L'info me plaît, donc elle doit être vraie. La mèche avait été allumée à plusieurs reprises depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et la mort d'Ali Khamenei, mais l'étincelle prend vraiment ce vendredi. Lors d'une prise de parole de Benjamin Netanyahu, des observateurs affirment compter 6 doigts à sa main gauche. Une preuve, selon eux, que les images retransmises sont générées par IA. Depuis, le Premier ministre n'a pas fait d'apparition publique. Deux indices jugés amplement suffisants pour acter son décès. Let's go ! C'est faux, c'est pas grave, ça fera des vues. Voilà. Puis il y aura bien 2-3 couillons qui n'iront pas vérifier. L'IA est devenue la fossoyeuse de l'attestation de la preuve par l'image, analyse Arnaud Mercier, professeur de sciences de l'information à Paris. Aujourd'hui, on peut s'en servir pour fabriquer quelque chose qui est faux en essayant de faire croire que c'est vrai, mais aussi pour démonétiser une image vraie en disant qu'elle a été fabriquée par l'IA. Voilà. Là, vous retrouvez avec des gens capables de vous dire que l'intervention qui prouve que Netanyahou est bien vivant, en fait, c'était faux. Attends, faut que je relise là. Là, vous vous retrouvez avec des gens capables de vous dire que l'intervention qui prouve que Netanyahou est bien vivant, en fait, c'était... Ah oui, je l'ai. C'était faux. Ah oui. C'est pas l'IA qui fabrique du faux. C'est pas l'IA qui fabrique du faux. C'est le vrai qui n'est pas vrai. Parce qu'en fait, le vrai, c'est du faux. Mais qui donne l'impression que c'est du vrai à cause de l'IA. Waouh. Ils sont forts. Donc c'est le vrai qui est faux. Alors que le faux, il est vrai. Les conflits en Ukraine et à Gaza n'ont cessé de le prouver. Désormais, les guerres ne se jouent plus uniquement dans les champs de bataille, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et ça va aller de pire en pire. Et là, on rigole, on fait les malins. Mais là, maintenant, voilà, c'est l'actu internationale. Au quotidien, c'est la politique. C'est des petites histoires, des grosses histoires. Il va être de plus en plus compliqué de distinguer le vrai du faux. Voilà. Et au final, les gens qui ont intérêt à ça vont prendre de la place, marquer du terrain. Et pardon, je suis pour l'instant assez pessimiste sur la suite. Le contrôle du narratif et du récit est devenu primordial. La rumeur autour d'une possible mort de Netanyahu en est la preuve. Peu importe qui est la source de l'information, elle sera relayée si elle sert le discours du camp que l'on défend. Voilà. Ça. J'ai envie d'y croire, donc j'y crois. Ça sert mes idées, ça sert mon camp, donc je vais y croire. Un exemple illustre parfaitement ce phénomène. Samedi soir, le compte X de Middle East, un relais d'information suivi par plus de 200 000 personnes, c'est pas rien 200 000, annonce que Netanyahou a été tué par un missile hypersonique qui a touché sa maison. Il poursuit en expliquant qu'Israël pourrait retarder l'annonce, déclarer que son décès était dû à un problème de santé inexpliqué, afin de dissimuler la vérité, source de cette information qui bouleverse l'ordre mondial des médias iraniens, lesquels, t'inquiète. T'as envie d'y croire? Vas-y. Trop tard, ce poste qui a tout pour complaire à ceux qui rêvent d'une élimination de Netanyahou dépasse les 6,5 millions de vues en moins de 24 heures. Dans la foulée, Anadolu, l'agence de presse du gouvernement turc, obtient un démenti de la part du bureau du Premier ministre israélien. Beau joueur, The Middle East le relaie également. Le tweet est clair, Netanyahou est sain et sauf. Et les rumeurs diffusées ne sont que des fausses informations. Ce tweet sourcé ne franchit pas la barre des 50 000 vues. Et c'est toujours comme ça. Le tweet originel qui relaie la fake news est vu, fait 6,5 millions de vues. Le tweet du même compte qui dément cette fausse information ne fait que 50 000 vues. 6,5 millions de vues pour la fake news, 50 000 vues pour la vraie info sur le même compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un combat qui est perdu d'avance. À mon tout petit niveau, je vous lisais, je vous donnais un exemple, moi, sur une des sauces multiples que j'ai vécues ces derniers temps et qui me régale, et qui bientôt vont régaler aussi une démarche judiciaire qui va être assez amusante, sur l'histoire de donc un des comptes qui a relayé des fausses informations sur l'affaire de la commission de l'Assemblée nationale sur le duel public avec monsieur Alloncle. Je vous donnais cet exemple d'un compte qui avait émis une information qui était fausse et qui a été likée par 5-6 000 personnes. Et pour les raisons que j'ignore, ce compte qui, 2 jours après, dit « Ah, en fait, je me suis complètement gouré, je suis désolé, j'avais mal compris, en fait, c'est pas du tout ça, Samuel n'a pas du tout commis ça. » Et ce deuxième tweet de la même personne, du même compte, n'a pas été liké 6 ou 7 000 fois, mais 10 fois ou 50 fois. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que ce combat est extrêmement compliqué. L'énergie... Voilà. Là, c'est même pas l'énergie pour débunker. C'est-à-dire qu'en fait, le même compte, quand il donne une fausse information, voilà, va être liké des milliers de fois. Et si ce même compte, pour ce qui arrive très rarement en plus, dit qu'en fait, il a désinformé, il a mal informé, personne ne va le voir. Voilà. Defecator dit par contre, ce n'est pas perdu d'avance, désolé, mais ce qui est constaté sur X ne s'applique pas à tous les réseaux sociaux. C'est perdu d'avance sur X, en l'état actuel de X, bien sûr. Voilà. Mais X ne peut pas demeurer comme ça hors la loi. Ce n'est pas possible. Quand vous voyez le mal que fait cette plateforme à la vérité et à l'information, voilà, vous savez qu'il y a des poursuites au niveau européen contre la plateforme d'Elon Musk. Voilà, ça ne peut pas rester comme ça. À un moment, il va falloir une mobilisation politique, il va falloir des textes, il va falloir des lois, il va falloir des poursuites. Voilà. Et si à mon petit niveau, je peux jouer un rôle là-dedans, je parle de poursuite, je le jouerai. La rumeur infondée l'a donc emporté plus que haut la main face aux démentis d'un média, pourtant très hostile à la politique du gouvernement israélien qui ne détesterait sans doute pas voir chuter son leader. Ce qui est marquant avec cette rumeur, c'est le mimétisme avec ce qui est réellement arrivé aux Iraniens, note Arnaud Mercier. Voilà. Lors du lancement de l'opération Epic Fury le 28 février, l'ayatollah Khamenei a été tué grâce à un travail de longue haleine des services de renseignement et une salve de frappe massive sur son quartier général en plein cœur de Téhéran. Sur X, ceux qui alimentent la théorie d'une élimination ciblée de Netanyahou calquent exactement le même schéma, mais sur le territoire israélien. Voilà. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Pour eux, c'est satisfaisant psychiquement. Ceux qui souhaitent la mort de Netanyahou, bah, la souhaite peut-être exactement de cette manière, avec un missile, comme Khamenei a trouvé la mort. C'est pour ça aussi qu'elle fonctionne. Ils sont forts pour inventer des histoires qui vont séduire, quoi. Alors, je ne savais pas que Netanyahu avait fait une vidéo, mais je vois qu'à la fin de l'article, il parle d'une vidéo. Quelques heures plus tard, Netanyahu a fini par briser le silence en répondant par une vidéo à ses ennemis jurés, en commandant un café crème dans une pâtisserie de Jérusalem, affichant un large sourire destiné à moquer les théories conspirationnistes le donnant mort. Il lâche « Je mourrai pour un café ». Ha ha ha. Voilà. Je vous lis et on enchaîne. Mais ça n'est qu'un exemple. Voilà. Et le problème, c'est qu'on est de plus en plus... visé, ciblé par ça, quoi. Il y a un truc qui nous protège encore, c'est que, par exemple, si on prend l'exemple de Netanyahou, dans les médias sérieux, enfin ceux que je consomme, je n'ai vu personne ce week-end relayer cette information de la mort de Netanyahou. Hein ? En revanche, j'ai vu effectivement sur les réseaux et singulièrement quasiment que sur X, j'ai vu nombre de comptes, certains très puissants, en général des gens dont on ne connaît pas l'identité. Hein. Ce sont des comptes sous pseudonyme. Derrière, on ne sait pas s'il y a une personne, plusieurs personnes. Parfois, c'est un visage, mais on ne connaît pas l'identité. J'ai eu l'occasion d'échanger avec eux sur l'histoire de l'Assemblée nationale. Les gens qui ne veulent pas donner leur identité, puisqu'ils se présentent comme des lanceurs d'alerte. Ok. Intéressant. Eh bien, on a retrouvé ces mêmes gens. Les comptes avec lesquels j'ai eu affaire sur l'affaire de l'Assemblée nationale, par exemple, ou du Zizigate, on les retrouvait aussi, ces mêmes comptes, sur l'histoire de Netanyahou. C'est génial. C'est les mêmes. Alors vraiment, il va falloir mettre un petit peu de rigueur dans tout ça. Ou alors des poursuites judiciaires. Mais il va falloir que ces gens arrêtent, en fait, de les informer. Parce qu'ils font énormément de mal. Et ça, il va falloir qu'on fasse des choses, quelque chose là-dessus. Parce que, imaginez 2027. Imaginez, vous vous rappelez ce qui s'est passé en Moldavie, en Roumanie, les manipulations de l'étranger sur les scrutins via les réseaux sociaux, via TikTok, tout ça? Imaginez, on est en 2027. On est avec un premier tour de la présidentielle, par exemple le dimanche, et on a une énorme fake news comme ça sur un des candidats les plus en vue, hein, qui sort à... Alors, 24 heures avant, c'est trop tôt. Il faut que les gens puissent... Il faut que ça puisse tourner. On va dire par exemple le vendredi, le jeudi, le mercredi, avant le premier tour. Voilà. Et un truc qui fonctionne, quoi. Un truc commandité peut-être par l'étranger. Et avec l'armée des désinformateurs, ou pour des raisons de... Parce qu'il y a financement, parce qu'il y a... Il y a une forme d'organisation, ou parce que tout simplement c'est des comptes qu'adorent faire des vues et des stats, et qui sont capables de s'emparer de n'importe quelle fake news pour faire des stats, parce que c'est comme ça qu'ils existent, parce qu'à un moment, bah, il faut bien bosser. Hein. Et imaginez cette info qui explose comme ça, une fake news, hein, juste avant un premier tour des présidentielles, ou avant un deuxième tour. Deuxième tour. C'est ça là, le danger. Et il va falloir que les sociétés démocratiques trouvent les moyens de lutter contre ça. On aura l'occasion d'en reparler, mais là c'était une belle illustration. Voilà. N'hésitez pas à aller lire cet article du Parisien, mais on a lu les grandes lignes, c'est page 18 aujourd'hui dans le Parisien. L'éducation à l'esprit critique déjà. Ouais. Ouais. Mais il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Supprimer son compte sinon. Pas sûr. Pas sûr parce qu'à un moment, il faut savoir ce qui s'y passe aussi. Il faut savoir ce qui s'y passe. Il faut savoir qui émet quoi. Quelles sont les infos. Voilà. Qu'est-ce que ça peut toucher quand vous voyez les stats de de ces postes problématiques? Vous arrivez à imaginer qu'une partie de la population non négligeable est touchée par ces messages. Vous savez, parce qu'après, ces gens viennent vous écrire dans vos DM et vous interpellent. Et puis, si en cas d'accusation grave ou en matière d'information ou visant une personne, ben, à un moment, il faut être en être informé pour être en capacité de prendre les décisions ad hoc, voilà, et par exemple, qui peuvent passer par des plaintes devant la justice. Donc je suis pas sûr que quitter X soit la solution, quoi. Le capitaine ad hoc, pas mal, pas mal, joli. Bon, beaucoup plus léger. Voilà, un peu de sport. Et c'est la une de l'équipe, et c'est une belle une de l'équipe qui est ici. Voilà. Voilà. Ça n'est jamais arrivé, c'est historique. D'après ce que je lis dans les journaux ce matin, et notamment dans l'équipe, jamais un Français n'avait gagné ce tournoi en Chine. Voilà. C'est l'un des frères Lebrun, alors je crois que c'est le cadet. Hein. Et c'est donc Félix Lebrun. Voilà. Phénix. Oh, ok. J'avais pas compris le jeu de mots. Phénix. Lebrun, après avoir renversé des situations très mal engagées en quart et en demi-finale, Félix Lebrun, c'est bien le cadet, vous me le confirmez, a dominé en Chine le chinois Wen Ruibo pour s'adjuger le deuxième, comment on dit, VTT ou WTT? Comment on prononce? Les amateurs de ping. On dit WTT? D'accord, merci beaucoup. Et donc, c'est là, je vais vérifier l'info, a priori, jamais un joueur non chinois n'avait gagné un WTT champion en Chine. Jamais. Et c'est la France, mesdames et messieurs. Et c'est la France. Voilà. Il est beau, il est magnifique. Regardez ces images. Regardez ça, comme c'est beau. Voilà. Regardez ça. La taille des bras, on dirait mes cuisses. Voilà. Et donc, et c'est la une de l'équipe qui aurait pu faire une une sur le rugby. Tournoi destination quand même, une sur la Formule 1 de ce week-end. J'ai vu qu'il y a un jeune pilote Mercedes qui a gagné le Grand Prix, c'est ça? Voilà, je crois que c'est un des plus jeunes vainqueurs de Grand Prix de l'histoire de Antonelli, c'est ça? Donc, bah, on le voit d'ailleurs là. Mais pardon, il est ici. Jeunesse triomphante. 19 ans, je crois. Et non, bah, l'équipe a choisi de mettre le ping en une. Phoenix Lebrun, au bout d'une semaine trépidante, Phoenix Lebrun a remporté hier à 19 ans son deuxième titre sur un champion en s'imposant en finale à Chongqing face au chinois Wen Ruibo, confirmant qu'il pouvait triompher partout. Passé maître en Chine, Fefe l'a fait. Ah, c'est pour ça que vous l'appelez Fefe. D'accord. Passé maître en Chine, est-ce qu'il y a une contrepétrie dans le titre? Passé. Non, je crois pas. Voilà. Fefe l'a fait, Félix Lebrun a gravi un nouvel Everest, le deuxième de son époustouflante carrière, hier en Chine lors du WTT champion de Chongqing, surnommé la ville montagne. Éclatant t-shirt rouge, regard perçant, éternel point rageur, le surdoué de Montpellier. Ah, Montpellier, c'est Montpellier aussi, hein, ils sont forts. Ils sont forts. Le surdoué de Montpellier a décroché le titre avec Maestria au bout d'une finale maîtrisée en 5-7. Son adversaire, Wen Ruibo, a été dépassé par cet affolant gamin de 19 ans. Oh, 19 ans! Exactement. Comme notre pilote Ferrari. Mercedes. Au sommet de son art. Alors après, l'article raconte comment ça a été compliqué, puisque en quart, notamment, ça a été compliqué. Voilà. Et en demi aussi. Le cadet de la fratrie Lebrun, qui est actuel 6e mondial, voilà, a attaqué le dernier acte avec une insolente confiance. Je suis super content de ce deuxième titre en champion, puisqu'il avait gagné déjà un WTT, je crois. Situé, voilà, catégorie de tournoi juste en dessous des grands Smash. Je suis heureux de la manière dont j'ai gagné ce tournoi, il y a eu des scénarios incroyables. La plus grosse satisfaction, c'est de sentir que je suis parmi les meilleurs joueurs du monde et de m'imposer sur des tournois où il y a tous les meilleurs. Ça me donne beaucoup de confiance. Ce sacre restera inévitablement au panthéon de sa carrière un peu plus d'un an et demi après la médaille de bronze au JO de Paris, quel goût celui-là. Et dans la foulée, son premier succès en WTT champion, c'était en octobre 2024 à Montpellier. Mais ce qui est fort, c'est que là, il l'a fait en Chine. C'est beau. Après, vous avez tout le détail du match, des matchs. Et vous avez notamment... comment il s'appelle ? Legout, c'est quoi son prénom ? Christophe Legout. Christophe Legout. Ancien international, oncle des frères Lebrun, qui dit « Félix devient de plus en plus injouable ». Voilà. Et en expliquant que son neveu dispose désormais de toutes les armes technico-tactiques. T'as parlé du rugby ce week-end, ben, pendant toute la spéciale municipale hier, c'était quand? C'était hier? Non, c'était samedi soir, attends. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand est-ce qu'on a parlé du rugby? C'était quand le match de rugby? Enfin, il y a un stream où on s'est tenu au courant du score... seconde après seconde. C'était pendant le stream Valo. C'était pendant le stream Valo. Ouais. On a suivi ce match complètement fou. C'était samedi. On était en stream Valo. On a refait du Valo. Comme je suis en train de préparer... bon, je vous annonce comme ça entre la poire et le fromage, mais comme je suis en train d'essayer de monter une équipe e-sport. Sur Valo, là, je suis en train de travailler sur le projet... avec des formations, avec c'est tout un écosystème pour faire profiter mon expérience, faire profiter les joueurs lambda de mon expérience sur le jeu, 1300 heures en stream, hein, de ma dextérité, de ma vista, de ma vision du jeu. Donc je suis en train de songer à un projet qui est pas que créer une équipe e-sport. Il y aura une équipe e-sport, mais il y aura aussi des petites formations, des petites pour que les gens puissent se hisser à mon niveau de jeu. En train de travailler sur le projet. Voilà. Je vous en dirai plus bientôt. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Je vous tiens au courant bientôt. Alors, pour être un grand joueur e-sport, il faut quoi? Il faut être en forme. Voilà. Il faut être en forme. Il faut être en bonne santé. Il faut être sportif. Et là, on a un drôle d'article dans le Figaro qui est assez rigolo sur comment les jeunes hommes sont devenus obsédés par leurs biceps. Alors, ça n'est pas moi, il n'y a pas de tatouage, il n'y a pas de dragon, ça n'est pas moi. Est-ce que les jeunes hommes sont vraiment obsédés par leurs biceps, par leurs muscles? Voilà. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Voilà. Le Figaro écrit, c'est Pauline Castellani qui signe ce papier. La multiplication des salles de sport low cost et la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux incite la Gen Z à sculpter ses muscles. Voilà. Alors, il y a John qui dit à cause de l'effet de mode induit par les influenceurs masculins, tout simplement. Le Figaro écrit, si certains, écrit le Figaro, comme John 33, écrit le journal, voient dans le phénomène une dérive masculiniste, ces garçons cherchent surtout à être en meilleure santé et à canaliser leurs pulsions. Voilà. En gros, l'article du Figaro nous dit qu'effectivement, il y a cette influence masculiniste, mais pas que. Il y a des gens qui vont faire de la salle, tout simplement pour être bien dans leur corps, pour être en forme, et pas forcément parce que, ils ont un problème avec les femmes. Donc, lisons cet article. Les avez-vous remarqué, ces adolescents qui roulent des mécaniques dans la rue? Bon, moi, j'ai pas fait attention, mais bon, il paraît que, avec leur démarche appuyée, c'est-à-dire, ils marchent comment? Les épaules qui s'enroulent. Comment? Comme ça? Le dos un peu voûté? La tête rentrée? Et les pectoraux gonflés sous leur t-shirt? Attends, les mecs sont comme ça? C'est pas joli. Attends, je vous le fais, je vous le fais. Je vous fais l'entrée, je vous fais l'entrée depuis les toilettes.
L'ordinateur. Alors les jeunes comme ça, les jeunes ils sont comme ça. Et ça marche, ça séduit, ça séduit, ça comme ça.
Ça m'étonnerait, j'ai vu personne comme ça. Je ne comprends pas cette scène. Je ne comprends pas cette scène. Voilà. Leur démarche appuyée, les épaules qui s'enroulent, le dos un peu voûté, la tête rentrée, les pectoraux gonflés sous leur t-shirt. Je vois vraiment pas ce qui est séduisant dans cette histoire. Depuis qu'ils pratiquent la musculation de façon intensive, la posture des jeunes se modifie progressivement. Mais je ne vois personne comme ça, moi. Arrête de faire gonfler tes pectoraux, ça même on ne voit plus le reste de la pièce. Je vous kiffe. Il suffit d'aller faire un tour dans un fitness park ou un basic fit entre 18 et 19 heures pour se rendre compte. On y croit surtout les ados et des jeunes adultes. Moi qui ai 50 ans, je suis souvent le plus vieux, dit le directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie musculation. Aujourd'hui, 19% des 15-24 ans, c'est beaucoup ça, pratiquent le fitness ou la musculation. Devenue l'une des trois disciplines les plus choisies au baccalauréat. Il y a muscu au bac? Il y a muscu au bac? Attends. Si tu marches comme ça, tu peux avoir ton bac. Ouais, ben. Je ne comprends plus rien à ce monde. Je ne comprends rien à ce monde. Muscu fitness. Incroyable. Eh ben, à mon époque, il fallait être bon en maths. Eh ben, ça va bien, tu m'étonnes. Génération perdue. Un phénomène qui s'explique d'abord par la multiplication des salles low cost en ville, des lieux particulièrement attractifs pour les plus jeunes, puisqu'ils affichent des abonnements autour de 30 euros par mois. C'est cher quand même. Et des horaires d'ouverture quasi continus. Certains proposent même l'accès aux machines 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Depuis quelques années, on remarque un glissement des pratiques sportives, observe de son côté Jérôme Auger, qui est kiné du sport et ostéopathe. On est passé d'une pratique un peu rigide avec des entraînements contraignants plusieurs fois par semaine et des compétitions le week-end, comme pour le foot, à des activités plus libres, plus individuelles, footing. Ah ça oui! Crossfit, yoga, pilates. Dans un environnement urbain où il est compliqué de trouver un terrain de tennis ou de basket, s'entraîner à la voile ou au ski, la musculation s'avère bien plus accessible. Ok. Mais ce qui a changé surtout, donc c'est plus accessible qu'avant, c'est qu'on veut désormais montrer ses performances. Le runner les partage sur Strava, moi j'ai jamais fait ça, je trouve ça complètement con. Les jeunes exhibent leurs muscles sur les réseaux sociaux. Ah bon? Vous faites ça, vous vous exhibez sur les réseaux sociaux? Point d'exclamation OF pour mon OnlyFans, si ça vous intéresse. Il y a aussi derrière la musculation intensive l'idée de valoriser son corps visuellement rapidement. D'où la quête chez certains de la prise de masse. Ciblé principalement sur le haut du corps, les pectoraux et les biceps. Je vais faire ça, moi. Premier muscle visible dans les interactions. Pectoraux, biceps. Alors moi, c'est vrai que j'ai des petits lolos maintenant, moi. J'ai des petits seins maintenant, moi. Faudrait que je m'assèche un peu. Premier muscle visible dans les interactions reste synonyme de force et de virilité. Puis j'ai un petit peu de bodou aussi. Maintenant, faudrait que je bosse là-dessus. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai observé la queue. La quoi ? La queue au banc de développé couché le lundi, pardon. Faut jamais s'arrêter au milieu d'une phrase comme ça. Parce qu'après, ça va encore se retourner contre moi. Non seulement il monte son sgeg, mais en plus, il n'arrête pas d'en parler. Donc, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai observé la queue au banc de développé couché le lundi. L'idée était de matraquer les pectoraux et les biceps le lundi, car c'est le jour où on est le plus en forme. Explique Guillaume Vallet, sociologue et économiste, auteur de La Fabrique du Muscle. Cette quasi-obsession du biceps viril se perçoit notamment chez les influenceurs sportifs qui vont parfois jusqu'à la dérive masculiniste. Alors attention, hein, tous les gens qui font de la muscu ne sont pas des masculinistes, mais ça peut aller jusqu'à la dérive masculiniste, poursuit le sociologue. Voilà. Pensée pour les réseaux sociaux, ces mises en scène appuyées du corps gagnent même la sphère politique. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron photographié en plein entraînement de boxe. Cette mise en avant du corps politique parle particulièrement aux plus jeunes car le message est simple, celui qui est musclé apparaît comme quelqu'un qui assure, qui a la carrure d'un leader. Il semble d'ailleurs que la salle de musculation de l'Assemblée nationale serait de plus en plus fréquentée. Il semble d'ailleurs que la salle de musculation de l'Assemblée nationale soit de plus en plus fréquentée. Moi, les députés que j'ai pu croiser et fréquenter récemment, je n'ai pas trouvé très en forme, mais bon. Sans surprise, ces représentations masculines ont aussi gagné le cinéma et la mode. Sur les podiums des défilés, les Éphèbes ou Ozempic, il y a quelques saisons, ont laissé la place à des Apollons au six-pack sculpté. Regardez les mannequins maintenant. Eh oui! Avant, c'était tout filiforme, tout menu, tout fluet. Regardez le machin, là. Ouais. Hein? Eh oui, la mode. Où est-ce que l'article veut nous emmener? Ben, salle de sport, je pense. Ouais. Sur le grand écran, la nouvelle génération d'acteurs affiche des muscles travaillés à la salle. Même le svelte Timothée Chalamet, longtemps victime de body shaming, on me répondait toujours que je n'avais pas le bon corps, dévoile épaules et biceps bien dessinés pour son rôle de champion de ping-pong dans Marty Suprême, film dont on a parlé ici. Voilà. Alors, ça, c'est une analyse un petit peu sociétale. Pour autant, écrit l'article, la motivation des plus jeunes à se façonner à un corps athlétique ne serait pas uniquement visuelle. Il y a chez eux aussi la volonté d'être en meilleure forme. Hein. Si on peut déplorer l'absence d'encadrement sur les plateaux de musculation à bas coût, parce que beaucoup s'entraînent seuls, ils font aussi du sport pour prendre soin d'eux, pour améliorer leur confiance, se sentir plus fort, en meilleure santé. Hein. La musculation est l'une des pratiques qui les pousse à s'intéresser également à la nutrition. Voilà. Par exemple, Maxime, 18 ans, qui a changé sa manière de s'alimenter depuis qu'il va à la salle 4 fois par semaine. Alors que j'allais souvent dans les fast-foods avec mes copains, je mange maintenant beaucoup plus équilibré, 3 vrais repas par jour, des aliments riches en protéines. Je consomme davantage d'œufs, de poulet et de dinde. Ma mère n'en revient pas. Hein, que je lui demande de me faire du poisson brocoli. Alors qu'un tacos. Depuis que j'ai lu que c'était un des légumes préférés des bodybuilders. Dégoulasse. Si le cliché de l'adepte de la gonflette et des muscles de vitrine des années 80 reste tenace, aujourd'hui la musculation vise à développer un corps fonctionnel, capable de bouger, de se battre, de lutter contre les vulnérabilités et des dangers. Voilà. Cela se perçoit jusque dans les techniques d'entraînement. On soulève toujours des poids, mais il faut également savoir monter la corde, faire des tractions, soulever un pneu, pratiquer le crossfit, l'irox. Voilà. C'est intéressant. Et le spécialiste d'ajouter, voyons plutôt le côté positif de cette pratique en soulignant que la musculation, comme les sports de combat, permettent aussi, avec leurs règles strictes, de canaliser les pulsions, notamment les plus agressives, et d'apprendre la maîtrise de soi. C'est une façon d'envoyer un message positif aux autres, montrer qu'on a réussi quelque chose, qu'on a pris une revanche, tout simplement qu'on existe. Voilà. Qu'est-ce qu'on comprend dans les motivations des gens qui font on dit Aerox ? Ah bah oui, mais encore un truc de jeune. Mais bon, comme dit Noctuan, moi je préfère plutôt le tasty crusty. Voilà. Donc il y a plein de motivations différentes pour les gens qui font de la salle. Voilà. Et évidemment, Il ne faut pas généraliser. Moi, je trouve que c'est un peu le message que je retiens de cet article. En vieillissant, certains jeunes gens reviennent de cette obsession de la prise de masse et cherchent à retrouver un corps plus svelte. Voilà. Je désespérais de voir mon fils au lycée se transformer en musclor à la Channing Tatum, comme la plupart de ses amis. Confie cette mère ME accent grave R.E. du 17e. Puis il a commencé à s'intéresser à la mode vintage, notamment à des designers comme Yoji Yamamoto. Mais comme il n'arrivait pas à passer ses bras dans les manches des vestes, ha! Pour ma plus grande joie, il s'est donc calmé sur le développé couché. Ah oui, ça rentre pas dans toutes les vestes, ça. Eh oui, ça rentre pas, ça. Moi, je rentre dans les vestes. Bon, je peux pas fermer les boutons de la veste, mais ça, je peux rentrer dans les vestes. Lui, il peut pas, lui. Lui, il est obligé de mettre un t-shirt comme ça. Je suis absolument pas jaloux, d'ailleurs. D'ailleurs, je suis quasiment gaulé comme ça, d'ailleurs. Presque. Quasiment. À rien. Non, à rien en deux mots. Oh là là, oh le sugar qui lance le débat. Oh, le fou. Merci Toroche, merci 9WNTR, je sais pas comment je dis, merci beaucoup, merci Lindar. Oh, le sugar qui met le feu au lac. Désolé, mais ceux qui sont vraiment matrixés par les muscles qui taffent uniquement le haut du corps, qui refusent de faire du cardio et qui se goinfent de protéines, qu'on ne me dise pas que c'est faire du sport pour être en meilleure santé. Le sugar a sorti son OP et ça met des têtes. Alors là, moi je me désolidarise. Ça tire à balles réelles dans ce chat. Oh là là là. Ah, mais certains sont d'accord, hein. Tu sais soulever un pneu, Samuel ? Non, j'ai pas que ça à foutre, moi. Vous êtes drôle. Poisson, brocoli, banger. Oui, alors je suis plutôt d'accord avec... où es-tu ? Je te ruche. Trop de jaloux ici. Peu importe la raison pour laquelle tu fais du sport, on s'en fiche, juste faire du sport, c'est top. Moi, je suis d'accord avec ça. Comment ça, Samuel, il soulève bien autre chose? Ils sont fada. Salut mon MSTR, bonne journée. Laissons les gens faire ce qu'ils veulent, les amis. Soyons un peu... laissons les gens faire ce qu'ils veulent. Le mec, moi je n'ai jamais fait de muscu de ma vie. Enfin, si, j'ai fait une séance avec Lydia il n'y a pas longtemps. J'ai mis 15 jours à m'en remettre, j'ai encore mal au cervical. Bon. Moi, j'ai jamais été attiré par ça. Bon, il se trouve que naturellement, j'ai un corps qui est quasiment parfait. Donc... J'ai pas de travail spécifique à faire parce que bon, tu me vois, tu te dis bon bah oui bah y a rien à faire. Bon, je n'ai aucun mérite. Hein. Je suis né comme ça. Donc je ne me réjouis pas de ça. Mais disons que c'est pas la peine de bosser là-dessus. Mais moi je comprends tout à fait les gens qui ont besoin de faire ce genre de truc. Laissons les gens faire le sport qu'ils veulent. Du moment qu'il n'y a pas une idéologie bizarre derrière tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Moi, je suis né. Bébé, j'avais des tablettes de chocolat. Hein. Et quelques minutes après ma naissance, je faisais des pompes et tout, les tractions. Hein. Il y a des vidéos. Hein. Il faudrait que je les retrouve. Mais c'était une dinguerie, hein. Faut que je retrouve les vidéos, je sais pas où elles sont. Je les posterai sur X. Comme il n'y a que des vraies infos là-bas. Il y avait la vidéo quand t'es né ? Ouais, il y avait le Super 8, des trucs comme ça un petit peu. Non, mais ne jugeons pas les autres. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Du moment qu'il n'y a pas des idées bizarres derrière, hein. Moi, je serais jeune aujourd'hui. Peut-être que j'en ferai un petit peu. Ou pas. Ouais. Aujourd'hui, je suis plus e-sport, quoi. Ouais. Il Bon, voilà pour cet article. Qui est pas si mal, en vrai, je trouve. Voilà, l'article, il dit tranquillou bilou, les gens font ce qu'ils veulent. Jugez pas. Bon, les amis, pour terminer, les municipales. Et là, vous allez dire, mais il est fada, le vieux. Il est plus étanche. Il nous a fait une heure et quart sur les municipales, une heure et demie. Hein, et il veut nous refaire les municipales. Oui, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là au début. Parce qu'il y en a qui nous ont rejoints. Et ils ne se sont pas pris le gros dossier sur les municipales. Et ben, je vous le refais en mode rapide. Alors, je ne vous reprends pas le dossier du Parisien. Je suis allé chercher l'article de l'Opinion qui résumait un petit peu. Voilà. Retour sur les résultats. Regardez. Alors, le Parisien nous a fait ça en 17 pages. Voilà. Et là, on a l'Opinion qui nous fait ça. Alors, ils en parlent en une page, deux pages, trois pages. Enfin, en trois pages. Voilà. Donc, on va aller à l'essentiel. Voilà. Mag Rose Beat. C'est un pseudo qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Dans le chat. Bah, ici, on a des pseudos aussi. Mag Rose Beat. Enfin, c'est comme ça. En trois mots. Il est de retour. Voilà, c'est d'actualité en plus. Nous dit. Ça commence à faire beaucoup, là. Ton pseudo, c'est Mag Rose Beat. Et tu nous dis ça commence à faire beaucoup ? Et ton pseudo, il fait pas beaucoup ? Alors, c'est pas parce que t'es un habitué que tu peux dire n'importe quoi, hein ? C'est dingue, ça. Merci, Matt Frog. Merci, Wins. Vous avez des pseudos qui ont un peu de tenue, au moins, là. Voilà. Donc, retour sur les municipales. Alors, regardez, c'est plutôt bien fait dans l'Opinion. Les 9 leçons du premier tour. 1. Bastion sécurisé et conquête incertaine pour le RN. Un siège confortable sinon rien, Jean-Alain Bardella a choisi de s'exprimer depuis la cité gardoise de Beaucaire dimanche pour les municipales, où la réaction du maire lepéniste était assurée. Avec Nelson Chaudon, qui a été réélu dès le premier tour, donc candidat RN, à Beaucaire, comme Louis Alliot à Perpignan, comme Steve Briouat à Hénin-Beaumont ou encore de David Rachid à Fréjus. Donc, des bastions sécurisés pour le RN. Putain, je ne vous ai pas mis l'article. Pardon. Voilà, là, c'est les trois pages de l'Opinion dont je vous parlais. Donc, bastions sécurisés pour le RN. Hein. Je me réjouis que plusieurs maires sortants du RN aient été réélus dès le premier tour. C'est félicité Bardella. Sans pouvoir s'étendre sur ces villes de conquête. Hein. La balle est désormais en l'air et dépendra surtout du jeu de ses adversaires, autrement dit des éventuelles alliances au second tour pour faire barrage au RN. Première ville de son tableau de chasse, Toulon. Il faudra attendre dimanche. Hein. La députée Laure Lavalette, qui misait sur la division de la droite, déchirée depuis l'inéligibilité du baron local Hubert Falco, obtient 39% des voix. Le second tour s'annonce toutefois plus difficile qu'espéré en cas de front républicain pour cette proche de Marine Le Pen, menant campagne sans étiquette. Comment ça ? Laure Lavalette, elle fait campagne ? Mais elle n'a pas l'étiquette RN ? C'est la première fois que je vois ça. Ah pourquoi ? Tout le monde la présente comme une RN. Faut pas avoir honte. Ça alors ? Il n'y a aucun logo du RN sur ces flyers, me dit le chat. Mais pourquoi c'est comme ça ? Ciotti, c'est pareil. Mais Ciotti, c'est normal, il n'est pas RN, il est UDR. J'avais pas vu ça. Ah ouais. Municipal 2026, Laure Lavalette, candidate RN à Toulon, mais sans logo RN. Comment ça ? La médiatique porte-parole de la formation d'extrême droite part sans surprise à l'assaut de la préfecture du Var, mais sans mention du parti qui la soutient. Mais c'est autorisé ça ? Ciotti n'est pas RN ? Ben non ! Le louche bordel ! Il est UDR, il est le président du parti UDR, allié du RN. Oh là, vous confondez tout. C'est drôle, ça. Laure Lavalette ne brandit pas le logo ou le nom du parti sous sa fiche de campagne. Il n'y a que sa photo. Ah ouais. Ah ben, je ne savais pas ça. T'es autorisé, ça ? Ben, ça va être autorisé. Ok, écoutez, j'apprends quelque chose. Bon, en tout cas, elle est bien considérée par le RN comme un bon succès, quoi. On verra ce qui se passera au deuxième tour. Ok. Toujours dans le sud à Nice, l'avance de son allié Éric Ciotti, donc Éric Ciotti UDR, je rappelle, parti allié du RN, est estimé de 10 points devant son ancien mentor, le maire Christian Estrosi. Je vois pas comment Éric Ciotti pourrait ne pas remporter Nice, mais bon, c'est pas moi qui vote, on verra le résultat dimanche. À Nîmes, dernier gros bastion de la droite, le candidat de la formation de l'extrême droite, Julien Sanchez, se hisse en deuxième position, 30%, à égalité avec le candidat de la gauche sans LFI, Vincent Bouget, 30% également, qui devrait bénéficier, lui, des réserves de voix de la liste insoumise. Mais là aussi, le jeu d'éventuels rapprochements au second tour pourrait décider pour lui. Les listes de droite et du centre sont données à 19,5% et 15%, à moins que le directeur de campagne des municipales du RN ne réussisse son pari de devenir le vote utile de la droite face à la gauche. Face à la gauche, le RN apparaît comme l'opposition le plus mordant à Marseille, à Lens. Voilà. Selon les premières estimations, le maire sortant de la gauche, Benoît Payan, 36%, devance de peu le candidat du RN, Franck Alizio. Ça, eux, l'opinion, ils sont allés au bouclage un peu tôt hier. Le RN rêve de renverser la métropole, on parle de Marseille, mais le jeu reste très ouvert. Échec toutefois à Lens, où le maire sortant socialiste Sylvain Robert revendiquait sa victoire au premier tour. Lors de sa prise de parole, Bardella a rappelé la consigne en vigueur, aucun désistement pour le second tour si la liste RN est qualifiée pour mieux s'implanter dans les conseils municipaux. Et ce, même dans le cas où cela permet à la gauche de l'emporter. Ah ouais ? Pourtant... Ah oui, mais Sarah Knafo, elle n'est pas RN. Mais pourtant, Sarah Knafo, elle a tendu la main à Dati. Oui, mais Sarah Knafo, elle n'est pas RN, elle reconquête. Eh oui. Parce qu'au niveau national, Bardella, il dit « Aucun désistement pour le second tour si la liste RN est qualifiée pour mieux s'implanter dans les conseils municipaux. » Ok. Sinon, le président du parti tend la main aux listes de droite sincères. Un enterrement en douceur d'une ni droite ni gauche chère à Marine Le Pen. C'est un peu subtil dans les stratégies d'alliance du RN, parfois je m'y perds un peu. Édouard Philippe en position de force au Havre, bon là c'est vite dit. Hein. Édouard Philippe, président du parti Horizon, candidat du parti Horizon à la prochaine présidentielle, avait misé gros puisqu'il avait dit que s'il ne gagnait pas la mairie, il abandonnait sa candidature pour la présidentielle. Il semblerait qu'il soit en bonne position pour garder la mairie, malgré les sondages qui donnaient de bons résultats pour le candidat communiste. La droite déçue à Paris, Dati ne fait pas le score qu'elle espérait. Lyon et Marseille se consolent à Besançon. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de Besançon tout à l'heure. On en a parlé hier soir. Non, mon Georgina, Knafo, dernière nouvelle, elle n'a pas fait 9%, elle a fait un peu plus de 10% en résultat officiel. Donc elle l'est au second tour. Eh oui, tu n'avais pas l'information. Eh oui. Et oui, il y a Georgina qui s'est couchée hier soir avec l'idée que Madame Sarah Knafo n'était pas au deuxième tour. Elle y est. Elle y est. Eh oui. Surtout ne pas perdre davantage de terrain. Tel était l'objectif que s'étaient fixés les Républicains. Paris réussit à attendre le président du parti, Retailleau. Voilà. Mais à l'heure est pourtant la déception dans les grandes métropoles. La droite espérait reprendre pied. À Paris, Rachida Dati arrive deuxième, nettement distancée par le socialiste Emmanuel Grégoire. Elle devra en outre s'entendre avec le candidat Horizon, Pierre-Yves Bournazel, qualifié pour le second tour. Voilà. Et puis, on voit que l'opinion est allée tôt à l'imprimerie hier soir, puisqu'il ne parle pas de Sarah Knafo, alors que maintenant, on sait que Sarah Knafo, elle se maintient, et donc Dati a une petite épingle, une grosse même dans le pied, qui s'appelle Sarah Knafo. Quelqu'un me demande le score de Rémi Gaillard. Rémi Gaillard à Montpellier. L'humoriste donc a fait autour de 8%. Il peut pas se maintenir au deuxième tour. À Lyon, autre déception pour la droite, puisque Jean-Michel Aulas est au coude à coude avec le maire écologiste sortant Grégory Doucet. À Marseille, le miracle n'a pas eu lieu. Martine Vassal termine troisième derrière le duel entre Benoît Payan, gauche, et Franck Alizio, RN. Et effectivement, à Besançon, alors moi j'ai appris hier que Besançon est une ville qui était dirigée par la gauche depuis un siècle, et on a peut-être un élu de droite, Ludovic Fagot, qui pourrait devenir le nouveau maire à Besançon. Voilà. Où le siège de la mairie était occupé par une écologiste jusqu'ici, Anne Vigneault. À Nantes, Foulc Chambard de l'eau, donc candidat de droite, talonne la socialiste Johanna Roland. Surprise aussi à Brest où Stéphane Roudot arrive en tête devant le maire sortant François Cuyandre. Par contre, Aulas risque de remporter la métropole du Grand Lyon. Ah ! Moi, j'apprends que Besançon était une ville. Tu croyais que c'était quoi, un fromage ? C'est sûr que Knafo se maintient? Non, on ne sait pas avant demain, 18h, mardi. Puisque les listes ont jusqu'à demain 18h pour dire si elles se maintiennent ou pas. Paris, petit zoom sur Paris. Emmanuel Grégoire en tête dans la capitale, le second tour incertain. Qui va être élu maire de Paris? Est-ce que ce sera Emmanuel Grégoire? Est-ce que ce sera Rachida Dati? Arrivé en tête avec 37% des voix, Emmanuel Grégoire creuse l'écart avec sa principale rivale, Rachida Dati, autour de 25%. Voilà. Avec 13%, Sonia Chikirou confirme la poussée de LFI. Voilà. Et on a donc, on a 1, 2, 3, on a 4, attends. Attends, 1, combien de candidats à Paris? Grégoire, Dati, Knafo, LFI, Bournazel, 5. 5 potentiels. Sonia Chikirou, LFI, qui attend maintenant un appel d'Emmanuel Grégoire en vue de la formation antifasciste, faute de quoi elle déposerait sa propre liste demain soir, sauf qu'Emmanuel Grégoire, pendant toute la campagne, a dit qu'elle ne ferait pas, qu'il ne ferait pas alliance avec LFI. Bournazel fusionne avec Dati. Alors ça, pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Sauf si c'est tombé ce matin, ce n'est pas officiel. Dati et Bournazel ne peuvent pas se sentir. Sauf que Bournazel fait partie d'un parti Horizon dont le patron Édouard Philippe dit qu'il faut faire alliance avec Dati. C'est ça le truc. Après, ils vont peut-être faire alliance, mais ils peuvent pas se blairer. Dati l'a annoncé ce matin. Il a fait un tweet. Wouhou ! Il valide. Let's go. On va voir ça. Ah ! C'est intéressant pour Dati. Il y a eu un petit coup de pression de M. Édouard Philippe, là. Bournazel, Pierre-Yves Bournazel. Oula, c'est long. Je suis un homme de dialogue, je souhaite l'alternance à Paris comme une majorité de Parisiens. Dès hier soir, j'ai donc échangé avec Madame Dati. Donc il ne dit pas qu'il s'est rallié, il dit qu'il a échangé. Mais je suis un homme de valeur, par conséquent, je pose trois préalables à toute discussion. Le premier, c'est de rejeter avec la plus grande clarté toute alliance ou porosité avec l'extrême droite et avec l'église de Madame Knafo. Donc je veux bien y aller, mais il faut que tu me promettes, Madame Dati, que tu ne t'allies pas avec l'extrême droite. Aucun rapprochement. Le deuxième, c'est de respecter le projet pour lequel près de 100 000 Parisiens ont voté hier, réformer le périscolaire, mettre fin aux abus et privilèges des élus à la mairie de Paris, poursuivre le projet de transformation écologique de notre ville. Trois, le troisième, c'est de changer le ton de cette campagne pour changer demain la gouvernance de Paris en mettant les Parisiens au cœur de la gestion municipale. Bon, a priori, Dati va accepter ça. Donc, a priori, ok. Et vous me dites que Dati a également tweeté. Elle n'a pas de compte, si elle a un compte. Nous allons travailler avec M. Bournazel, un projet d'alternance. Ok. Donc ça, c'est clair. Ok. Alors maintenant, la question de savoir, c'est est-ce que ça suffit? Est-ce que l'alliance Bournazel-Dati suffit pour gagner la ville, quoi? Et plutôt ce matin, Macron appelait à une union des deux. Bah, Macron, depuis le début, il soutient Dati. Ce qui est un peu étrange, parce que c'est pas à son camp, mais voilà. Macron a été un soutien de Dati dans cette campagne. Ça va être serré Paris. Hein. Ça va être serré Paris. Ouais. Dati ne s'est toujours pas fait condamner. Non, le procès ne s'est pas tenu encore. Ok. Ok. Voilà, et regardez, l'opinion écrivait ce matin, Pierre-Yves Bournazel détient donc en grande partie la clé du second tour. Ok. Bon. On reste à voir ce qui va se passer autour de Knafo. Que veut dire l'opinion quand Le journal écrit « Le piège de Jean-Luc Mélenchon se referme sur le PS ». Durant cette bataille municipale, Jean-Luc Mélenchon s'est employé à plumer la volaille socialiste. Le cavalier seul des Insoumis n'était pas destiné à produire une génération, quoique la victoire tende les bras à David Guiraud-Roubaix. Non, il s'agissait de pouvoir faire danser les sortants socialistes en réalisant un score supérieur à 10%. Mission accomplie donc. Pour Sonia... Pardon, excusez-moi, la fatigue. Sophia Chikirou à Paris, Sébastien Delegueux à Marseille, qualifié au second tour. Mission plus que remplie pour Lawaria Hadouche à Lille, qui talonne le successeur de Martine Aubry, 24%. Le coordinateur de l'EFI, Manuel Bompard, s'est donc félicité d'une progression remarquable de son mouvement. La nouvelle France est entrée en scène, a-t-il dit, en appelant à constituer un front antifasciste avec les forces de gauche partout où la droite ou l'extrême droite menace. Manuel Bompard a fait mine de tendre la main aux socialistes, sachant pertinemment que toute fusion avec LFI allait mettre le feu à la Maison Rose, on parle du PS. D'accord. L'opinion estime que la main tendue de LFI au PS, c'est une façon de fracturer encore plus le PS, quoi. Ok. Les écologistes offrent un sursis, donc là on l'a vu tout à l'heure, hein. On attendait à une vague dégagiste anti-écolo avec les bons résultats des écologistes au municipal en 2020, et en fait ils sont en meilleure situation que prévu. À Marseille, bon ça on en a beaucoup parlé tout à l'heure, la menace RN pousse à gauche, la gauche à s'unir. Sur le papier, je ne vois pas comment le candidat RN pourrait s'imposer, sur le papier. Mais merci Motrakeos pour ton raid, tu vas bien? Je pense que vous étiez à fond sur les municipales aussi. Mais tout est dans les mains des électeurs. Et puis à Lyon, la déception de Jean-Michel Aulas, puisque l'ancien président de l'OL y croyait dur comme fer. Il a eu jusqu'à 20 points d'avance dans les sondages sur le maire sortant écologiste Grégory Doucet. Sauf que M. Doucet a fait une remontada incroyable. Et donc aujourd'hui, la mairie semble échapper à Aulas. Payan a annoncé qu'il avait déposé sa liste en refusant tout accord avec LFI. Ouais. Donc maintenant, la question de savoir si LFI va se maintenir. À Marseille. Voilà. Et là, là, vous avez le résultat de 23 villes à la loupe dans l'opinion, avec Nantes, voilà, avec Le Havre, Lens, Roubaix, voilà, Nîmes, Toulon. Fameuse Laure Lavalette, dont j'ai appris ce matin qu'elle était la candidate RN, mais sans logo RN. Besançon, on en parlait à l'instant. Saint-Étienne, tiens. Saint-Étienne va-t-elle connaître une nouvelle alternance? Depuis 1977, la préfecture de la Loire a connu un maire communiste, puis UDF, puis PS, puis UMP. Cette fois, le candidat de l'Union de la gauche hors LFI, Régis Joannicot, arrive largement en tête, 30%, devant l'insoumise Valentine Mercier, 15%, et le candidat de la droite, Dino Cieri. Deux autres prétendants peuvent se maintenir, on peut avoir cinq candidats au deuxième. Siam Labiche pour le centre et Corentin Jousserand pour le RN, 14,15%. Bon courage, Drakeos. Bon courage. Ça, je ne sais pas du tout, Major, c'est une très bonne question. Toulouse, Bordeaux, Nantes et Le Havre. Voilà. En vrai, si vous n'avez pas trop de temps, si vous ne voulez pas vous taper les 17 pages du Parisien, ben, je trouve que l'opinion ce matin, avec ces trois pages-là, nous donne un petit résumé vite fait des municipales. Sachant que ce n'est que le début, sachant qu'on a le deuxième tour essentiel dans plein de grosses villes dimanche, voilà. On se fera une petite soirée spéciale bien sûr. Et puis surtout que c'est ce scrutin des municipales va avoir des conséquences sur la vie politique en France et sur les présidentielles de 2027. Voilà les amis, pour ce petit stream de 2h47, après un lever à l'aube pour emmener l'aîné en vacances, en voyage scolaire. Voilà. On a le cœur serré, c'est le premier voyage scolaire vraiment de Malo, 9 ans. Voilà, il part plusieurs jours. Ça va faire comme un vide à la maison. Heureusement, on en a refait un autre là récemment. Mais bon. Il va où? Il va en Angleterre. il va loin. Il va manger du gravy. Il va manger de la gelée. Il va manger de la saucisse au petit-déj. Voilà. Je suis heureux pour lui, mais il va nous manquer fort. Ouais. Du fish and chips. Mais il est trop content, il est avec ses copains. En plus, c'est trop mignon, ils ont émis des souhaits pour être avec certains copains dans les chambres, c'est les chambres de 6. Voilà, et en fait, il est qu'avec ses potes. Il est qu'avec ses potes. Donc, tout le week-end, il était excité comme une puce. Ce matin, il s'est levé, il était quelle heure? Je sais pas. On est parti à 7h de la maison. Il était heureux comme tout, je crois que c'était le plus content de tout le groupe. Voilà. Donc, il a l'air super heureux de ça. Il a préparé son sac lui-même, toutes ses affaires, les habits, les trucs, les machins. Voilà. C'est trop mignon. Voilà. Donc, je le retrouve, c'est moi qui vais le chercher à la gare vendredi. Voilà, ça va être top. Il va finir au pub. Alors, ben, si c'est comme son père, oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Merci, les amis. Ouais, vous avez vu le gros sommaire? Voilà. Et donc, je rappelle, pour ceux qui ont raté l'info, quand même, hein, ceux qui se sont fait intoxiquer par les comptes de désinformation sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de Zizi Gate. Personne n'a vu le Zizi. Ce sont des inventions de gens sur le réseau du Chétan X. Je vous refais la scène une dernière fois. Je vous rappelle, je veux cut le stream, j'ai mal cut le stream, j'ai pas mis ça. J'ai laissé ça, j'ai pas arrêté le streaming. Voilà. Je me cure le nez, je bosse, je vais aux toilettes, et Sugar m'appelle au téléphone et me dit t'as pas coupé le live. Je me lève parce que je suis vieux, parce que je suis fatigué, parce que je me dis il y a une urgence, il faut que je coupe le live. Je vous refais la scène. J'arrive ici. Je me penche pour attraper la souris. Je m'apprête à cutter le live. Je me vois. Je comprends. Voilà. Mais on ne voit rien. Il n'y a pas de Zizi Gate. Hélas, puisque je sais que beaucoup de gens rêvent de voir mon Zizi, quand je vois le succès des publications autour de ce sujet, je ne pensais pas que mon Zizi puisse fasciner autant de gens. À ces gens-là qui ont colporté cette fake news, je promets deux choses. Voilà. Une photo de mon Zizi en DM personnalisé et des poursuites judiciaires très bientôt. Sur ce, les amis, on va faire un raid. On va aller voir qui est en live. Et on va faire un joli raid parce que vous êtes très nombreux. Alors, qui est en live? Beaucoup de gens. Oh là là, le nombre d'amis qui stream là. Oh! Oh! Ah, c'est le jeu de Joe, ça, je vois. Pokémon Pocopia là. Hein? Oui, c'est Chinou, ouais. Bon, il y a Chinou qui est sur. J'aime bien Chinou, j'aime bien son stream, c'est toujours très chill. Et sur ce jeu là que Joe adore, bon, c'est un très bon raid ça. Allez, on donne de la force à une streameuse. Voilà. Alors attention, je m'applique. Attention, maintenant on cut le stream ici avec beaucoup de rigueur. Allez. D'abord Samuel. On met ça. Ok. Bon, la caméra n'est plus là. Ok. C'est propre. Ok. Ensuite, je prépare le raid. Chez nous. Pas chez nous. Chez nous. C'est le nom. Voilà. Hop. Alors voilà, j'ai mis la scène de fin. Je garde mon pantalon. On ne te voit plus. C'est normal. Je charge le raid. Voilà. Je ne mets surtout pas ça. Je mets ça. Et on va voir chez nous. Des bisous. Prenez soin de vous. Moi, je me suis mis un petit post-it maintenant avec tout ce qu'il faut vous faire avant de raid. Ça se trouve, je vous dis peut-être à ce soir, j'ai une grosse journée. Merci pour tout, merci pour ce matin, c'était un plaisir. Je vous aime fort. Ciao, ciao.